Welcome to the show. Six and Dash Hip Hop Show. Bringing you the best.
Bringing you the
best in hip hop.
DJ, turn it up.
Oh, yeah.
Hey, comme on se retrouve, les petits amis. Pour un nouveau Six and Daz. Alors, je pense que ça sera le meilleur Six and Daz.
Ouais, le nouveau produit. Meilleur, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr.
Et ça sera le nouveau meilleur, alors que j'ai quand même de sérieux doutes concernant l'artiste que nous allons évoquer aujourd'hui.
Eh ben, tu ne devrais pas.
Sais que je ne devrais pas. Ouais. Néanmoins, je te connais. Je connais ton amour pour la musique de Flipper et de Pachinko. Là.
Il y en aura, je promets.
Ah, oui, je sais, parce que j'ai vu l'artiste et je sais qu'il a produit. Donc, déjà, de base, ça va être des instrus à moitié bruités à la bouche et l'autre moitié bruités dans une casse auto. Voilà, je préviens les gens. Mais ça me fait quand même plaisir qu'on parle. Déjà, parce que en termes de parité sur ce podcast.
On est loin de la parité, mais on sera toujours loin.
On est méga loin de la parité.
Ouais, mais on sera toujours loin, de toute façon.
Pourquoi malheureusement,
il n'y a pas assez d'artistes féminines comparées aux
artistes masculins. Bien sûr que si.
En termes de nombre, non, pas trop.
Et en termes de qualité, attention.
En termes de qualité, souvent.
Attention, c'est un terrain dangereux.
Non, mais souvent, je trouve que les qualités, la production féminine est quand même supérieure à la production masculine en général.
Bravo.
On a eu chaud quand même. On est à deux doigts là.
Oh là là, on a failli se faire striker. Attention, parce que.
Mais c'est vrai, en plus, c'est vrai.
On va bientôt rentrer en février. Février, un mois néfaste pour les podcasts de bonne famille qui se font striker en bonne et due forme. Donc, attention. Restons quand même sur notre fil on respecte bien la ligne blanche, qu'on traverse pas tout ça. Oh. Alors, de qui parlons-nous aujourd'hui, Six?
Alors, on parle d'une artiste.
Tu vois, les gens qui écoutent, ils vont pas comprendre les ricanements, mais nous, on se comprend et c'est quand même le principal. Voilà, c'est la huitième prise de cette émission et on n'a même pas encore passé un seul morceau. De qui on parle? Attention, Bouloudoum.
Et bien, on va parler d'une grande artiste qui s'appelle, juste après ça. Et voilà, donc tu auras deviné la production et l'artiste.
Alors la production, figure-toi qu'il y a moins de bruit de bouche que ce que j'attendais.
Ouais, c'est le début.
L'artiste, je sais pas, on l'a pas entendu rapper. Parce que maintenant on fait comme si on était aux pièces ici, donc on attend même plus les artistes sur les chansons.
C'est ça qui est intéressant, on va voir, parce que c'est un artiste qui rappe et qui chante.
Mais qui ça peut bien être?
Et bien on parlera de Missy Elliott.
Ah mais bien sûr, Missy Elliott. Oh là là, artiste renommée, carrière internationale, coupe improbable, outfit géniaux, style en elle-même.
C'est tout ça.
Avant, je sais que Six.
Bah oui, bien sûr.
Tu demandais une minute de recueillement.
Une minute de recueillement parce qu'on enregistre quelques jours après la mort de Kobe Bryant. Ouais. Et le hip-hop, la culture basket, c'est quand même quelque chose qui est très très lié. Souvent, quand on est au bord du terrain, sur le playground, on écoute du hip-hop et puis
c'est
on s'ambiance.
C'est très lié. Hein. Maintenant, j'ai l'impression que c'est plutôt la culture foot.
Aussi, bien sûr. Mais, bien
ce qui
sûr,
explique
mais
hein, que tous sûr. Les rappeurs maintenant portent des survêtements ajustés. Oui.
Mais le basket reste quand même une musique culturellement de très liée au hip-hop. On se rappelle surtout aux États-Unis, les joueurs de NBA, ils arrivaient, ils étaient habillés comme des rappeurs, que les Allen Iverson, tout ça, quand ils arrivaient, c'était Baggy, Shane. Et il y a eu une loi qui a été votée justement pour qu'ils n'apparaissent plus en ce moment sur les terrains en rappeur. Ils étaient obligés après de mettre une veste,
une cravate.
Exactement. Ouais. Et donc voilà, Kobe Bryant, bon, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. C'était vraiment une personne forte. Si j'aime les Lakers, c'est pour Kobe Bryant, moi, tu vois. J'ai aimé les Bulls pour Jordan et j'ai aimé après les Lakers pour Bryant. De toute façon, si t'aimes Michael Jordan, après Kobe Bryant, qui était une copie de Jordan.
Bah oui, c'était la relève.
Ouais, exactement. Et
je suis un peu déçu quand même que t'aies pas aimé les Lakers à l'époque de Nick Van Exel et tout ça, tu vois. Ouais. Comme les vrais Lakers fans.
Ouais. Ah bon? Mais moi j'étais Bulls, j'étais pro Bulls, tu vois, à l'époque.
Ah ouais, c'est facile ça, d'être pro le meilleur joueur du monde qui joue dans l'équipe.
Non, mais t'as raison, franchement, je suis plus.
Il aurait été pro Milwaukee Bucks s'il y avait eu Giannis Antetokounmpo à l'époque.
Moi je suis plus joueur qu'équipe en fait. Ouais. Tu vois. Donc après, je m'intéresse à l'équipe pour garder le joueur.
C'est-à-dire que si Kobe était parti des Lakers pour aller au hasard, je sais pas, à Miami ou.
Ouais, Miami, j'aime bien aussi.
Tu serais devenu.
À l'époque, il y avait LeBron. Non. Bref, après 20 ans de Lakers, tu gardes pendant 20 ans les Lakers parce que génération 78, on a encore perdu un des nôtres. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai suivi pendant 20 ans les Lakers, donc c'était un attachement. Aujourd'hui, je regarde aussi encore les Lakers. C'est
son moyen. Aujourd'hui, il y a les LeBron James, bon, ça va
aller. En disant qu'on a la chance avec les Lakers, c'est qu'ils ont assez d'argent pour.
Ouais, il y a une période creuse quand même.
Oui, toujours.
Non, c'était compliqué d'aimer les Lakers. Heureusement, c'est moins compliqué d'aimer les Lakers que d'aimer les New York Knicks.
Ouais, c'est clair.
Et là, je fais une dédicace à un de mes potes aussi, Drixé, il se reconnaîtra. Parce que lui, il aime les Knicks depuis toujours, depuis Patrick. Wing, t'imagines, t'imagines les vaches maigres qui se mangent là depuis à peu près 30 ans.
Oh, non, mais c'est dur. Moi, je sentais quand j'étais là-bas à New York, putain, c'est vraiment dur quand tu te dis t'as une ville comme ça qui gagne partout ailleurs, hein, qui gagne au baseball, qui gagne au football américain et au basket, ils arrivent à rien, quoi.
C'est des cabris, hein,
c'est.
Mais alors, on parlait pas du basket à la base.
Oui. À la base, voilà, je voulais dire, voilà, c'était voilà, quelque chose d'important, puis repose en paix, quoi, Kobe.
Ouais. Un plus qui part.
Ouais.
Et j'ai même pas de vanne.
Welcome to the show. Fix and Dash Hip Hop Show. Bringing you the best. Bringing you the best in hip hop. DJ
Tarin the. Oh yeah!
Et sans transition.
Sans transition, on va aller en Virginie, tiens. Virginie.
Ouais. Alors la Virginie, on situe, hein, c'est sur la côte est, au sud.
Ouais, Washington.
Washington, du coup, c'est.
Washington, et puis
ah, bah oui, Virginie occidentale, mais tout à fait. Donc vers Washington, tout à fait.
On va aller à Portsmouth.
Portsmouth.
Ouais. Donc, alors, on parle de Missy Elliott et son vrai nom, c'est Melissa Arnett Elliott. Donc, Missy.
Comme... Ah non, Arnett.
Arnett.
Okay, putain, Arnett. Je croyais que c'était Arnett comme la voiture dans Daytona USA et comme les Charlottes. Ouais.
Alors, elle est
de quelle année celle-là?
Elle est de 71, hein. Tu vois, c'est.
Opération Daronne, hein, quand même.
Ah ouais, non, c'est. Et donc, elle est fille de marine. Et ils vont vivre dans un mobilhome. Tu vois, t'imagines? Alors, c'est important aussi de signer parce que, aux États-Unis, quand il n'y a pas de project, tu vois, bah, les gens, ils vivent dans des mobilhomes quand ils n'ont pas l'argent, tu vois. Et on l'a vu dans 8 Miles, par exemple, tout ça. C'est quelque chose de culturellement, c'est-à-dire dès qu'on sort des grandes villes.
Dans les trailer parks.
Voilà, exactement, c'est ça. Et donc, ce serait quelque chose d'assez commun et répandu là-bas. C'est quand t'as pas de fric, bah, tu vis dans une caravane, quoi. Dans un mobilhome.
Mais dans un mobilhome qui mobile jamais, hein.
Ah non, là, qui mobile jamais, bien sûr. Ouais, okay. Donc, c'était important, on n'en avait pas parlé parce que d'habitude, c'est toujours des gens qui viennent des projects qui vivent dans des tours. Mais là, non, dès qu'on sort des grandes villes, bah, on se retrouve dans un mobilhome. Ce qui est encore un peu plus difficile. Et alors elle rêve d'être chanteuse, elle, tu vois, mais personne ne la prend vraiment au sérieux dans sa famille, tout le monde blague, tout ça. Et elle a un point d'as, qui est assez sérieux.
On rappelle, hein, quand même que on est impatient de découvrir le point d'as, mais c'est quand même fondamentalement triste. Je le dis quand même. Ouais. On a un cœur ici aussi, hein, on s'en rend compte, mais on est obligé de prendre de la distance pour pouvoir encaisser les destins tragiques des gens qu'on chronique. Voilà, merci.
Alors, la pauvre Melissa, elle est souvent battue par son père.
Ah ouais, non, ça c'est triste.
Et elle raconte même qu'elle avait peur d'aller dormir chez des amis par peur de retrouver sa mère morte le matin. Parce que son père le menaçait souvent avec un gun et tout ça.
C'est un marine.
Oui, donc il avait gardé
des armes. Voilà. Puis en plus, aux États-Unis, bon, t'as pas trop de mal à garder les armes.
En plus, en Virginie, je pense que encore moins, c'est assez courant. Et tu achètes des carambars, t'achètes des cartouches, quoi. Ouais. Des carambars et des cartouches, merci.
Les carambars, attention, tu peux t'étouffer avec.
Voilà. Le mec, il met son carambar dans le gun. Il t'envoie un carambar dans la gueule. Pouf! Il doit y avoir, hein, certainement, des morts par 40
ans. Non, mais pour de vrai, hein, des trucs comme les Kinder Surprise, c'est interdit aux États-Unis. Ouais. Parce que les enfants peuvent s'étouffer avec. Voilà. Mais ça vend des armes. Les fèves des galettes des rois aussi. Du coup, ils ont des galettes sans fèves?
Ils les mettent après.
Ah, c'est vrai ça?
Ouais.
Ah, intéressant ça.
Putain,
quelle culture.
C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de hasard, tu vois.
Non.
C'est-à-dire que tu sais déjà quel enfant tu vas privilégier.
C'est un peu le cas déjà. Moi, je sais qu'avec les
meilleurs. Oui, mais toi, c'est différent, tu vois. Ouais. Moi, j'en ai qu'une, donc c'est pas dur de tricher.
Oui, ouais.
Mais toi, t'en as deux.
Ouais, bah oui. Bon, bah
après, et tu peux pas avoir deux fèves dans une galette.
Il y a une débrouille à faire deux galettes.
Un
jour sur deux.
Une bonne technique, ok.
Et alors, on vous donne des conseils, hein. Six and Daz, attention.
Conseil famille. Conseil éducatif. Oui.
Ah, c'est le point d'as.
En plein milieu du point d'as, donc c'est totalement légitime. Là. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe avec ce papa un peu vieux?
Alors à 14 ans, avec sa mère, elle décide de se réfugier chez de la famille.
Ouais.
Et ils vont partir. J'ai pas mis l'endroit, mais ils vont quitter la Virginie et Portsmouth. Ils vont se réfugier, je pense, je sais plus exactement où.
Mais toujours en Virginie ou...
Toujours en Virginie, mais en se rapprochant de New York. Un peu plus haut. Je dirais la ville, j'ai pas noté malheureusement. Alors, en 91, et ça intéresse, elle va former un groupe de R&B.
Ah tiens.
Oui, parce que au début, Missy, elle veut devenir chanteuse. Elle veut pas devenir rappeuse, c'est pas son truc. Donc elle veut devenir chanteuse. Et elle va former avec Et là, j'adore les noms parce que c'est vraiment bien carré, ça. Avec LeSean, Shonita et Redia, le groupe qui s'appelle Phase.
Phase.
Avec, voilà, avec cette première démo. On est en plein New Jack style.
Ah ouais, là, c'est full New Jack. Hein.
Un peu, hein. Si ouais. On écoute bien, on reconnaît Missy. Belle voix, hein. Et voilà.
Donc là, on est en pleine époque Boys to Men, BBD, ouais. ABC, LBC, CCP, tous les trucs en trois lettres, là.
Là c'est les cassettes, hein. Les cassettes de New Jack, est-ce qu'elles tournaient celles-ci, hein. Les écoutaient jusqu'à plus soif. Et donc ça, c'est produit par un certain Timothy Mosley.
Oh, ah, le fameux, on
oui.
le connaît lui.
Eh oui.
On le connaît avec son nom de scène,
eh oui.
emprunté à une chaussure de hiking de bûcheron, bien sûr.
On parle de Tim Malin, bien sûr.
Évidemment.
Ouais. Alors Tim Malin, c'est l'histoire est belle parce que c'est son voisin, en fait. C'est son voisin.
Ah, donc
ouais.
Total pif,
ouais.
quoi.
Ah, ouais, vraiment, c'est ouais, donc belle carrière, bah, ensemble réussi.
Mais du coup, est-ce ouais. que... Alors, question comme ça,
ouais.
on fera certainement un Six and Dance sur Tim Malin.
Oui, bien sûr.
J'espère une
oui,
fois
oui.
que je serai mort.
Oui, oui.
pour que j'ai pas assisté à l'enregistrement. est-ce que lui aussi, c'est Missy qui lui a permis de se lancer ou est-ce qu'il avait déjà un petit succès?
Alors non, pas du tout. Ils ont vraiment commencé ensemble.
Voilà,
ils ont vraiment commencé ensemble. Ils ont eu le même âge, même génération. Ils se traînaient ensemble. Ils ont fait une démo. Ils avaient besoin d'un beatmaker, quelqu'un qui faisait des sons. Et c'est son voisin avec qui ils s'entendaient très bien, tu vois. Et alors tout ça, ça va faire un peu de buzz. Ça va attirer l'attention d'un groupe. Un groupe, j'ai dit très connu, le groupe Jodeci.
Ah, Jodeci. Ah, oh là.
Avec Devante
Swing,
Mr. Darwin, et surtout
Jojo.
Ok, c'est Jojo. Elle est plus connue, ceux qui ont voilà. Alors c'est quand même 20 millions de disques, hein, Joe Desi. On s'en rend peut-être pas compte, mais c'est quand même du.
Je serais curieux
très,
de savoir.
Très lourd.
Je le demanderai quand on publiera quand on publiera cet épisode.
Ouais.
Je demanderai aux gens sur Twitter si Joe Desi, ça leur parle ou pas.
Ah oui.
Parce que c'est aussi ça qui peut te permettre d'être classé vieux schnock.
Je pense que les gens connaissent plus Joe Desi et Jojo en France que Joe Desi. Je pense.
Ouais,
bien sûr. Carton.
A breath of the man,
il fait très bien. On mettra, tu mettras Mélodine.
Ah non mais attends, mon gars, moi,
ouais, bon.
gros niveau de chant.
Ouais. Et donc tout ça leur permet d'aller direction New York et de signer chez Elektra Records.
Ah putain, je croyais que ça allait être tout le monde colombien.
J'allais
rigoler.
Ils ont le pif, je te dis, ils ont le pif, tu vois, dans cette émission, ils ont le pif, tu vois. Alors le groupe Phase, c'est bon, ça va devenir Sista.
C'est marrant, hein, parce que Phase, ça sonne vachement bien, ça fait
genre
le nom de graffeur, voire de tagger.
C'était super moderne, alors que Sista, tu tombes dans un truc, un
lieu
commun, une banalité.
C'est à peu près le même époque que Sister Act, tu vois, les copies et tout.
Ouais, mais bon, ça doit être, voilà, bon, Sista, bon, certainement, ils ont dû faire un brainstorming, les gars.
Ça veut dire quelque chose ou pas? System, Inaridim,
Sensation, Trailer, American. Et donc voilà, donc l'album Sista, qui s'appelle For All the Sisters Around the World, va sortir avec ce titre. It's been 5 years long since I first met you. You haven't changed, baby. You are still the same. Comment ça reconnaît Timbo là?
Ouais, y'a des...
Bon.
Mais c'est pas mal, hein.
C'est pas mal, c'est bien,
mal, ça c'est cool.
C'est cool. Bon, on est loin du Missy Elliott qu'on connaît, mais c'est ça, à l'époque, c'est ça, c'est le son comme ça.
Mais dans le
très
groupe
long, très...
Phase Sista, ouais, là, ouais. C'était elle le leader ou elle
non,
était.
Non, il y avait 4 chanteuses, alors. Alors, cet album, il n'est jamais sorti. C'est un album qui n'est jamais sorti. Il n'est jamais sorti, sauf des démos, enfin des promos qui sont sortis. Ils sont sortis à peu près 10, 15 000, et moi j'en ai une, tu vois. Donc j'allais emballer, tu vois.
Ouais, incroyable!
C'est le pro que j'avais trouvé en Angleterre.
Sous blister!
Ah ouais. Enfin, sous blister, moi je l'ai remis dans une protection, tu vois.
Ah, c'est toi qui l'as protégé.
Et ça vaut une petite fortune maintenant, ça. Hein. C'est,
Combien?
Non, tu en as 150 euros, quoi.
Ah oui, c'est une petite fortune.
Tu vois, pour un CD. Et donc je suis content de l'avoir, tu vois, c'est quelque chose.
Incroyable.
Toucher, mais. des yeux.
Toucher avec les yeux. Toucher avec les yeux.
Bah, tu vois. Et donc, ça ne va jamais sortir.
Alors pourquoi c'est jamais sorti?
Bah, ça n'est jamais sorti parce qu'ils ont dû considérer que le retour, tu sais, les maisons de disques.
Ouais.
Si le retour n'est pas bon des singles, et bah, malheureusement, bah, tu restes dans le tiroir, quoi.
Alors qu'ils ont. C'est ça que je comprends pas. Il faut que tu m'éclaires là-dessus.
Ouais.
Je veux dire, là, on a le truc,
ouais.
hein.
Mais tu vois, c'est les promos. En fait, les promos, je les distingue parce qu'ils sont coupés. Ils peuvent plus être vendus, tu vois. Souvent aux États-Unis où ils font des points, où ils font une coupe, qui fait que le CD ici là, il y a une coupe, tu vois là.
Ah oui.
Oui. Il
clique
sur le côté.
Oui, il y a un truc sur le côté. Oui, sur qui le fait côté, que ce CD n'a plus le droit d'être vendu, en fait.
Ah, parce que le boîtier est abîmé.
Oui, voilà, exactement.
Non, mais d'accord,
ouais.
Mais je veux dire, là le boîtier que j'ai en main, ouais. C'est un boîtier plastique standard.
Ah, bien sûr, mais c'est pressé, c'est du pressage.
Je veux dire, il y a des images dessus, des photos, il y a un track listing. Pourquoi est-ce qu'ils le sortent pas?
Et parce qu'ils considèrent que le sortir, ce serait un échec plus que déjà avoir dépensé cet argent pour la promo.
Tu vois, même Ghislain, qui est pourtant, il s'y connaît en radio et en musique, hein, même lui, il comprend pas.
Bah, aux États-Unis, il faut voir que c'est des chiffres.
Une fois que tu t'es fait chier à le produire, le mec, tu le signes et que tu le sortes jamais parce que. Là, je veux dire, le truc a été pressé et tout, tu vois.
Mais en fait, c'est une question de coût. S'il considère que le coût de pas le sortir est moindre que le coût de sortir avec de la promo, parce que là, il faut aussi mettre de la promo.
Mais non, mais dans ce cas-là, ils peuvent très bien le sortir, mais sans promo.
Oui, mais là,
ça, c'est déjà fait, ça.
Oui, ça, c'est déjà fait, mais. Ça y a pas grand intérêt, tu sais. Si tu fais un pressage, tu dois partir. T'imagines le nombre de magasins? Tu vas partir sur un 200 000, 300 000 pressages, si tu te les manges. Après, moi, je pense que chaque cas est unique. Il y a toujours des raisons, ça tombe, c'est juste une embrouille. Ça tombe, elles se sont embrouillées, tu vois, et puis c'est
pas
sorti.
Je pense que chaque cas, surtout, c'est la maison de disque qui te nique.
Oui, bien sûr. Mais dans tous les cas, je veux dire, dans tous les cas, le gagnant, c'est la maison de disque.
Oui, c'est vrai. La banque gagne toujours.
Exactement, mais c'est ça, bien sûr. Bien sûr.
Oui, mais enfin, bon, c'est un peu dommage parce que du coup, là, le peu que j'en ai entendu, ça swingait.
C'était correct. Et d'ailleurs, un titre, c'est marrant parce qu'il y a un titre qui va se retrouver sur la BO d'un certain film, Dangerous Mind.
Esprit rebelle. Bah, Esprit rebelle, c'est Gangsta's Paradise.
Ouais, exactement, Coolio. Donc ça va faire son chiffre, ça va faire gold, tu vois. Il y a un titre de l'album qui est sur la BO. Donc ça a au moins servi à ça.
Donc ça veut dire que là, il y a une mère de famille qui habite en banlieue des États-Unis. Donc ça veut dire qu'elle a de l'argent.
Ouais.
Elle va chercher pour son fils la BO de Dangerous Minds. Ok. Elle lui fait écouter. L'enfant est content. L'enfant voit qu'à l'arrière du CD, il y a un groupe qu'il connaît pas. Il veut acheter l'album. Ça. Il l'a dans le cul.
Ou alors très cher.
Ouais, ou alors très cher.
À l'époque, il n'y a pas internet en plus.
Parce qu'on rappelle que, à l'époque, le système, c'était d'abord, on voit ton nom sur une compile.
Bien sûr.
Et du coup, les gens qui ont écouté la compile s'intéressent à toi. Et là, tu peux avoir des ventes, machin, etc. Ouais, Donc, les mecs sur la compile de Dangerous Mind, ils ont mis un titre gratuit.
Oui, oui. Bon, après,
parce qu'il n'y avait rien derrière.
Il y a eu un deal, certainement, je ne sais pas quelle est la maison de disque qui a sorti.
Oui, mais je veux dire, ils auraient pu claquer un artiste, tu vois, ils auraient pu remplacer ce groupe qui n'existait pas finalement par des mecs qui étaient là.
Bien sûr. Après, les BO, tu vois, ils font combler aussi. Souvent, quand tu reçois, t'as 20 titres sur la BO, il y a 10 titres que tu ne connais pas.
Alors, attention.
Pas dans le film.
Attention. Rappelons-nous quand même que de 1991 à 1998, au moins, la BO. Les BO en général et les compiles en particulier, ça a toujours été des trucs de tarés.
Bien sûr, bien sûr.
Je veux dire, que ça soit la BO de New Jack City, de Boys in the Hood, de Menace to Society, de tous ces films-là. Et Esprit Rebelle, c'est la même chose. C'est-à-dire que pour un morceau, Coolio Gangsta's Paradise, je veux dire, le film, il est anecdotique, je m'en rappelle même plus.
Complètement,
C'était la BO qui permettait au film d'exister.
Grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il comble toujours. T'as 5 morceaux que t'as pas entendu dans le film, par exemple, toujours.
C'est
la maison de disque, elle met des titres, puis il y a du Sista, bah c'est bien, puis elles ont touché certainement des sous là-dessus aussi, hein. Tu vends quelque chose, tu vois.
Mais en tout cas, ce groupe-là, en tant que collectif, il a jamais existé.
Jamais existé, c'est jamais sorti, tu vois. Donc, peut-être que c'est un bien quelque part, parce que ça l'a obligé à faire une carrière solo. Quelque part, c'est ça aussi positif pour la suite de notre histoire.
Ok.
Alors, elle va faire partie d'un collectif, et un collectif qui s'appelle le Swing Mob. Et c'est un collectif important parce que ça va jouer beaucoup dans tout ce qui est dans le répertoire musical. On va revenir un peu dans le système de clics, tu vois, qu'on parlait à l'époque. C'est-à-dire, dans ce collectif, il y a Timbo, donc, de Yamagou. Donc, il est souvent l'associé à Timbo, avec qui ils font des sons. Il y a donc Genuine.
Ah, Genuine. Ouais, Genuine, bien sûr.
Et oui. Playa, le groupe Playa. Si vous vous rappelez, c'est un peu un groupe à la 112, un peu
Take May, tout ça.
Et Tweet, qui était souvent avec Missy Elliott. Un chanteur qui s'appelait Tweet et qui était souvent avec Missy Elliott, à droite, à gauche.
Mais il s'appelle Tweet.
Mais il s'appelle Tweet. Allez, pas avant le Twitter.
Ah, putain, avant Twitter.
Il aurait dû le déposer.
Ah bah oui, c'est dommage. C'est dommage. Ouais.
Et donc voilà, c'est important parce que c'est un collectif, on le verra plus tard, qui va rester vraiment, mais pendant 10 ans, ils vont bosser ensemble, que ensemble. Eux, entre eux, tu vois, c'est-à-dire qu'ils vont écrire, ils vont faire des sessions d'écriture, des sessions de son. Tu vois, l'album de Genoa, il est produit par Timbo. L'album de Playa, il est produit par Timbo, écrit par Missy. On rentre vraiment encore dans le système de production team, tu vois, on est ensemble, on vient de la même histoire, le même quartier, et on reste solidaires. Et ça, c'est quelque chose de remarquable.
C'est beau. Et ça s'appelle Swing Mob,
Moi non plus, je t'avoue avant, c'est en faisant mes recherches. C'est vrai, en faisant mes recherches, puis je dis, l'histoire est belle, tu vois, c'est. Parce que c'est vrai que dans la musique, souvent, tu vas un peu là où le vent te mène.
Là où Columbia t'accepte déjà.
Ou te jette,
oui. Bon, là, tu termines.
Et donc, elle va commencer à former un duo, donc songwriter, produceur, avec Timbo.
Donc Timbaland au son et elle, elle écrit.
Exactement, c'est d'accord. Ça, tu vois. Et ça va commencer à bien marcher, hein, parce que là, c'est bien parce qu'on va refaire un peu l'histoire du R&B d'époque. Ce qu'ils vont produire et
qui mérite, hein, ils méritent des gros spotlights, hein, des gros projecteurs. Le R&B des années 90, c'était ouf.
Ouais. Alors, il y aura, rappelez-vous. SWV.
Sister SWV, with Voices, ouais. Ah, oui. Mais bien sûr, incroyable. Mais qui ne se rappelle pas incroyable. De. Mmh. Attends, c'était quoi? Bah, ils avaient samplé Michael Jackson. Right here. Right here. Me right here. Hein, rappelle pas? Il y avait l'orc de Sauver Willy dans le clip qui passait comme ça en transparence.
Ah, c'est vrai, ouais.
Ouais, et puis plongé dans l'eau, c'était ridicule. Ça, ouais, non, c'était. Ah, c'était bien, SWV. SWV. Ah, bah oui, il y avait 702.
Bah, oui, aussi. Alors c'était un peu à l'époque où on faisait les copier-coller à chaque fois de groupes.
Il y avait 112, alors il y a 702, 649, 7795, ok, allons-y, ok, donc 702.
Et puis surtout, il va y avoir ce... Et c'est là que c'est la première fois qu'on va l'entendre de rapper, mais si, il va y avoir ce titre.
Elle avait fumé de l'hélium ou...
Non, en fait, c'est une petite de 8-9 ans, c'est à l'époque de Criss Cross. Ouais. C'est une petite, tu vois, c'est une petite de 8-9 ans.
Ah mais attends, mais c'est Raven Simonet.
Oui.
Bah c'est la petite du Cosby Show.
Oui, voilà, bah, exactement.
Ok, d'accord.
Et là, c'est... Ah, c'était l'époque où il fallait faire du...
L'époque du ragga hip-hop. Moi, je dis rien, j'aime bien.
Je sais qu'il a une certaine sensibilité.
Oh, ouais, ouais, j'adore.
Et oui, c'était la petite du Cosby Show. Donc, renommée, donc album.
Raven Simonet, ouais, tout à fait.
Ouais. Et bon, c'est à l'époque, là, on revient encore dans l'histoire du...
Voilà, on est encore en 94.
On est en 94, donc c'est l'époque Chris Cross, tu sais, les gosses un peu, tu sais, dès que c'était gosse, on leur mettait des baguilles un peu bas et hop, on
a des disques. Brat, hein, 94, ouais. Bon, ouais. Elle était moins petite, mais...
Voilà, elle avait quel âge, elle avait un Brat 15-16, non?
Ouais, pas 20, mais peut-être pas 16 non plus.
Ouais.
Parce que Chris Cross, eux, ils avaient... Ouais, peut-être. Parce que Chris Cross, eux, ils étaient petits.
Ouais, ils étaient petits, ouais.
Après, il y avait les Da Youngsters, il y avait plein de... Illégal.
Plein.
Putain, quelle belle époque.
À l'époque, on pouvait encore arnaquer ses enfants. Je veux dire que maintenant, c'est beaucoup plus difficile, je peux vous le dire. Tu vois. Et donc voilà, ça va plutôt bien marcher, tu vois. Ça va faire son petit chiffre. Ça va être 68e au Billboard.
C'est pas mal, ouais, sachant bien. Que honnêtement, on est, j'ai jamais entendu ce morceau.
Ah ouais, bon, moi non plus.
Je me serais rappelé du ding 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 ding.
Elle te fait de mal à toi, ça, j'ai pensé à toi.
Ah bah oui, bah direct, ah oui, ça c'est ragga hip hop, allons-y, guillemot.
Mais bon, ce qui va surtout faire leur renommée, c'est qu'ils vont commencer à travailler avec une chanteuse qui va quand même devenir une superstar. On parle de Alia.
Alia.
Ouais. Donc ils vont faire 9 titres sur l'album et ils vont surtout faire ça.
Attends. Oui. Parce que le premier album, celui où elle s'est fait cornaquer par R. Kelly, dans tous les sens du terme d'ailleurs, c'était pas sur celui-là, c'était sur
le deuxième album.
More Than a Woman, je sais pas quoi.
Ouais, exactement, qui est ici là, souci.
Ah, comment il s'appelle
One in a Million.
Ah non, One in a Million. Oui, one in a million. Voilà. Okay.
Donc avec le titre, vas-y. Ah, c'est une émission noir et blanc aujourd'hui.
Ouais, on a Chebli dans le public aujourd'hui qui a hoché la tête en signe de reconnaissance parce que ça c'était l'enfance.
Hein. Ouais. Ah oui.
Hein, t'es amoureux.
Ah, tu m'étonnes. On les sait tous. Ah, tous amoureux,
tu m'étonnes. R. Kelly aussi. Hein, d'ailleurs. Il s'est pas privé. Hein, il était peut-être déjà marié, hein, puisqu'elle avait quel âge ? Elle avait 15 ans, hein, donc c'est bon.
Oh, oui, bah,
pour R. Kelly,
oui,
c'est parfait. Limite un peu vieille.
C'est un peu vieille, j'allais dire.
Quel enculé celui-là.
Bon, alors là, c'est gros carton, ça c'est 2 millions.
Oui, tout à fait.
2 millions de ventes, donc là, ça commence à devenir sérieux. Là, vraiment, ça commence à devenir sérieux. Et là, je fais une petite blague. Après, c'est la totale avec le groupe.
Total.
Waouh. Ouais, wow.
Là, il est auteur. Hein. Il est auteur.
J'essaie de me placer. Donc,
les week-ends et les jours fériés. N'hésitez pas à faire appel à Six.
Excellent
hein.
Groupe, hein, Total.
Total. Alors, ah oui, je serais incapable parce que Total, c'est tombé en plein milieu de tout cette avalanche de.
Tout ça.
Du coup, je savais plus ce qu'elle chantait.
C'est noté parce que c'est un groupe qui m'avait marqué. Alors, je sais plus trop. Je me rappelle qu'il y avait un T comme ça.
Ouais. Et puis un O aussi, sûrement. Dans un genre de truc comme Maria, tu vois. Mais non, mais qu'est-ce qu'ils ont chanté? Elle, c'était un groupe de femmes.
Oui, c'était trois femmes, je crois. Bon, comme trois jours, trois femmes.
Qu'est-ce qu'elles ont chanté?
Elles ont chanté C'est l'homme for you. Slam Flame for the Light.
Ok, donc il sait pas non plus.
Ouais, exactement. Okay. Alors, Nicole Ray et Destiny Child. Destiny Child qui commence à performer. Donc elles font tout ça. Et donc ça commence à devenir
quelque chose. Ça veut dire que
elles écrivent, elles composent pour
Missy
tout le temps.
Missy a écrit pour Destiny Child.
Oui, ah, oui. Donc ça commence à devenir sérieux. Et là, on parle pas de carrière solo, on parle de carrière de songwriter.
Ah oui, là, elle est même pas à part avec Raven Simone.
Oui, voilà, la saison de Tiflo. Exactement.
Sinon, le reste du temps, en fait, elle est derrière.
Elle est derrière. Ghostwriting. Voilà. Et je pense que c'était même fait une idée de bah, je vais faire ça, c'est ma carrière maintenant. Avec Timbo, on fait une équipe et ça marche plutôt bien. Toi,
oui, c'est
spécialisé R&B. Hein, spécialisé R&B.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, après, bon, on va faire là, j'étais obligé de le jouer parce que c'est quand même un méga tube. Un méga tube. I'm running to you like shoes, oh you who's, and I choose from the fly things, forget that you do, who rules, you dudes can't you see, like total, kissing you got Gina running for the boulder, hit me on my car phone, if you got the hydro with me and you can roll, oh, we can take a stroll on the beach, but bad boy, don't take your love away from me.
Ouais.
Eh oui, eh oui.
Maintenant, c'est qui ça?
Alors, ça, c'est Gina Thompson.
Aucune idée.
Alors, Gina
Thompson. Aucun souvenir. Ouais.
Ce titre-là, ça te dirait, ce titre-là?
Alors, le titre.
Oui.
Le titre, mais en même temps, le titre, c'est parce que, franchement, l'instru.
Oui.
C'était typique de tous les remixes de Puffy.
Ouais. Voilà, complètement, okay. Complètement, ouais.
Par contre, Gina Thompson.
Oui. Alors, l'artiste, elle a fait ce tube.
Ah, okay, d'accord.
Et c'est un titre qui a quand même marqué. C'est un titre qui a risqué. C'est 29 semaines dans les charts. C'est au Billboard. Hein. 100. C'est énorme. C'est... Quelque chose, c'est de la moitié de l'année, presque.
Presque. C'est même au-dessus, puisque. Il y a 52 semaines dans une année, donc.
Voilà. Je suis très bon en mathématiques.
Mais c'est marrant parce que c'est genre les morceaux que tu devais entendre sur les tapes de Goldfingers ou.
Mais complètement. Mais bon, c'est comme ça que je les ai connus.
Ouais, d'accord.
Tu vois, les Cut Killers, les Goldfingers, on les écoutait comme ça. Hein. À l'époque, on attendait la tête de DJ Abdel et puis hop, ça mettait. Bon, on découvrait tout ça. Et ça, ils le mettaient tout le temps.
Hein,
puis t'avais toujours le petit passe-passe qui revenait dessus. Et puis bon, le morceau faisait 16 minutes. Hein. C'est facile. C'est facile, tu vois. Et donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est la première fois qu'on l'entend rapper. À la manière de Missy Elliott, tu vois, au début.
Ouais.
C'est vraiment.
Il n'y a pas de ding 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 ding.
Ouais. Okay. On est passé. L'époque était courte, hein, du
rag. Donc ça, tu dis, c'est resté 29 semaines.
29 semaines, classé. Ouais, classé. C'est pas mal. Donc, c'était un vrai tube. On était en quoi, en 96?
Mais alors, attends, parce que là, depuis tout à l'heure, là.
Ouais.
Donc, ils étaient en coulisses. Ça veut dire qu'ils travaillaient toujours pour la même maison de disques.
Non.
Eux, ils allaient de projet en projet.
Exactement, de projet en projet, tu vois.
Parce que là, je suis surpris qu'il y ait personne qui les ait signés, là. Encore.
Eh, ben, justement, ben, ça va arriver après, ça va arriver après.
Mais après longtemps ou après?
Après,
ça va arriver. Okay.
Faut prendre son temps,
Ok, je suis trop pressé, très bien, ok.
Alors après, on enchaîne les tubes. Alors New Edition, Genuine, ouais. Men of Vision, etc. etc.
Donc full R&B encore. Ah,
full
R&B,
full R&B. Ouais. Et puis, là, il va y avoir. You rock the party that rocks the body. Ah là là. I rock the party that rocks the body. You rock the party that rocks the body. I rock the party that rocks the body.
Ah bah oui, même les gens qui n'écoutaient pas l'ont écouté, ce morceau, je vous le dis, parce que moi j'écoutais pas et pourtant là c'est venu, tu vois, le il est venu automatiquement.
Alors là, c'est
ouais, ça, ils ont roulé sur tout le monde.
Ah oui, ils ont roulé sur tout le monde. Et c'était en novembre 96 et donc un million de singles vendus.
Parce que je vois que c'est le Bad Boy Remix.
Ouais, c'est le Bad Boy Remix.
Et le morceau de Gina Thompson, c'était aussi le Bad Boy Remix.
En fait, on n'a pas eu les versions d'album, on a eu les remix, nous. À l'époque,
donc à chaque fois qu'il y a le remix, elle est dessus ou elle est
dessus? Parce qu'en fait, elle était très très pote avec Puffy aussi.
Ah, voilà.
Donc il y avait.
Donc sur le pas Bad Boy Remix, sur l'original, elle est pas dessus.
Elle est pas dessus. Non, c'est ça, exactement.
D'accord.
Et donc. Alors, Puff veut la signer justement parce qu'il est très pote, il veut la signer, il fait du forcing tout ça.
Ouais.
Mais elle reste fidèle à Elektra. Elle va signer chez East West, qui est une branche de Elektra.
Donc la meuf, juste hein, pour qu'on replace, elle reste fidèle à la maison de disques qu'achète le fait l'album parce que.
Alors parce que certainement avec
Stockholm,
Thibaut,
moi je dis Stockholm.
Tu vois, ils ont dû signer un deal, tu vois, il y a certainement un deal sous-marin ou en publishing.
Ouais, ouais, parce que rester fidèle à une maison de disques qui sort pas ton album, c'est un peu débile.
Mais après qu'il doit bien placer quand même, apparemment.
Ok.
Donc ils ont fait le taf. Ouais. Ils ont fait le taf.
Peut-être qu'ils se rattrapent alors.
Oui.
Ok.
Okay. Et donc, alors, elle va signer donc chez.
Donc là, on est en 96.
On est en 96. Elle signe chez East West Records.
Ok.
Donc elle signe un deal. Alors c'est un beau deal. Elle va signer une sorte de label deal avec Timbo. Donc il va permettre de sortir les albums de Timbaland et les albums de Missy Elliott. Donc c'est un deal. Ils ont dû avoir un bon
avocat.
Ouais, un bon avocat. Donc en 97.
Ouais.
Elle continue un peu les placements. Alors on a le Kiss Wet, on a le Face Seven, Coco, Gérard Levert,
Johnny Gill.
Voilà. Souvenez-vous,
souvenez-vous. Non, mais attends, qui souhaite Johnny Gill
Oui, ça, non, on est dans du.
Ouais,
oui,
oui, Face Seven. Même Gérald Levert. Hein.
Oui.
J'ai réécouté il y a pas longtemps.
Très, très bon, excellent. Ah, excellent.
Ils sont bien, hein. C'est pas mal. C'est pas mal.
C'est très, très bon. Mais c'est une époque, franchement. Alors, bon, on va pas faire les vieux, mais c'est une époque très qualitative au niveau R&B. C'est avant l'arrivée justement de tous les synthés un peu.
Ouais.
C'est moins club, mais c'est plus radio. Tu vois ce que je veux dire?
C'est de la musique de Renaud Asselin. Tu vois?
Exactement.
Les grands manteaux Zara, les contours au laser, les petits cols roulés, même quand il fait 30 degrés. Ouais, on les reconnaît, Ouais.
Alors, petite dédicace d'ailleurs. Alors, là, c'est l'heure du premier album.
Ah!
Ah oui, premier album, tu vois. Là, on est en juillet 97, premier album. Super Duper Fly qui arrive avec ce titre. Me, I'm super fly, super duper fly, super duper fly. Me, I'm super fly, super duper fly, super duper fly. Alors c'est découverte sur les mixtapes à droite à gauche. Alors c'est un titre très lent, et alors c'est pas mon préféré de l'album, mais c'est le premier single et qui va bien marcher,
Il est méga lent.
Oh, il est super lent.
C'est vachement dépouillé comme prod.
Ah oui.
Bah, non mais je suis surpris parce que Timbaland normalement bon il y a quand même des.
Ouais, il y en a un petit peu, mais en fait je pense qu'après il a dû jouer la chose en chair. Je l'avais celui-là. J'ai déjà fait, tu l'as aussi.
Parce que là c'est bon, alors évidemment formule qui fonctionne, un petit sample, tu vois, un truc bon. C'est, t'as l'impression les mecs ils ont une checklist quand même pour que ton morceau il cartonne, il faut un sample un peu soul.
Oui, bien sûr, machin, bien sûr. Mais c'est à la fin, Puffy il expliquera dans les années 80, fin des années 90, il dira c'est simple, pour marcher il faut prendre ce qui a marché dans les années 70.
Oui, c'est vrai.
Je veux dire, lui disait, c'est clair, ma recette, c'est ça. On prend ce qui marche dans les années 70 et on le remet.
Tu changes, voilà, exactement.
Et ça marchera toujours. Il a raison. Tout ça, c'est ce qui a fait que son succès, lui, il a toujours marché comme ça. On prend des gimmicks, des trucs
bien cramous. Ouais,
ça rappelle des souvenirs aux gens, puis aux nouveaux. Enfin, tu vois. Tu vois, c'est.
Ouais, c'est vrai, mais c'est une bonne, bonne technique. Hein.
Bonne technique pour marcher. Bon, tu vois, c'est. Alors, moi, bon, il y a ce titre, j'ai mis dans un deuxième titre de l'album que j'adore.
Ah bah oui.
Ah c'est là.
Ah bah pour moi c'est ça le morceau de l'album.
Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que j'étais obligé de le jouer celui-ci. Alors c'est marrant parce que les gens, je sais pas toi, mais ils disent qu'ils ont tout enregistré en une semaine.
Tout l'album?
Tout l'album, ouais, tout l'album. Et donc, ils ont vraiment créé une touche, là, on peut leur dire, ils ont vraiment créé quelque chose.
Franchement, enfin, je pense que Missy et Timbaland ensemble, ça doit être des monstres en studio. Déjà, parce que, tout ce qu'on a vu, ils se sont fait les dents sur une ribambelle d'artistes. Ouais. Mon avis, eux, au niveau hygiène de travail, ça devait être ultra carré.
Tu les sors, de toute façon, tu sens que eux, c'est.
Ils sont pas là pour blaguer. Ouais, ils ont une heure de studio.
Et donc, voilà, c'est vraiment une performance, et ça, ça va cartonner. Là, à partir de là, c'est parti pour 10 ans de domination. Avec Timbo, Missy, c'est 10 ans. On part à partir de quand? Juillet 97.
Okay. On se donne rendez-vous en 2007. Ok.
Et donc voilà, alors bon. Combien ça vend ça? Combien ça vend? J'ai mis le chiffre.
Non, il n'y a pas le chiffre.
Un million deux pour un premier album.
Premier album, 1,2 million. Oui, si elle fait pas 2,4 million au deuxième, elle va se faire dropper, moi je te le dis. Après, je sais pas ce qui s'est passé, on va voir, mais 1,2 million, quand tu commences fort comme ça, il y a beaucoup d'attentes autour de toi.
Bien sûr.
Oui, mais tu vois, il vaut mieux commencer tranquille, pépère, genre t'as 700 000, c'est déjà pas dégueulasse, vrai, tu vois, bon voilà. Ouais. Puis tu grimpes, mais commencer à 1,2 million, ça veut dire que t'es obligé de faire 1,2 million minimum le
soir prochain. Oui, et on verra, je pense que c'est ce qu'elle va faire.
Ok.
Allez, spoiler. Tu vois. Et donc, alors c'est fort, c'est parce qu'elle a pas vraiment inventé un style. Là, on peut le dire.
Ah bah, le style Missy, ouais.
Et aussi bien dans le son que dans l'image.
L'image que j'ai, moi, de Missy Elliott, c'est des clips avec une focale chelou.
Ouais, Hype Williams, toujours, ça.
Avec Missy en survêt, genre cosmonaute NASA, tu vois.
Ouais, c'est ça, exactement.
Qui arrive avec des pas chelous syncopés sur le côté, là. Limite, qui reprend des pas de danse complètement éclatée, genre la danse des canards. Mais,
mais ça passe.
Non, mais quand elle le refait, tu fais, oh, mais c'est mortel!
C'est vrai.
Et après, tu vas essayer de le faire au Metropolis. Enfin, ça, c'est si t'arrives à rentrer, bien sûr. Ouais, avec Chez Billy, on a comme ça des
histoires de
on écoutait
de soirée parking, hein, comme on appelle ça.
Ouais. Eh oui, bah oui, bien sûr.
Des soirées où tu rentres pas, mais où quand même t'avais préparé tes pas, hein, tu vois.
Dans le parking.
Et c'est vrai que Missy Elliott, mais Chemi avait son pas. Hein, je sais.
C'est vrai, il avait son pas.
Il a caisse, il avait son petit pas et tout. Et ouais, pour moi, c'est Missy Elliott, tu vois, ces ambiances-là.
Complètement. De toute façon, elle a joué sur l'aspect justement un peu clownesque, brillant, par son physique aussi. Elle avait un physique imposant qui fait que elle pouvait pas jouer la fille sexy.
Et du coup,
donc elle a joué sur ça et ça passait super bien. Elle avait les coupes en couleur, c'est courte, souvent coupée court. Tu vois, elle était la première à faire ça, hein. Coupe court avec
en fait,
couleurs
elle
était tout,
complètement. Alors là, c'est comme ça, ça me frappe tel un astéroïde.
Je le sens, je le vois là.
Est-ce que Missy Elliott se serait pas fait complètement pomper son style par Will.i.am des Black Eyed Peas?
Alors c'est un long débat.
Je vous laisse méditer.
C'est un long débat. Il est pour.
Moi j'ai l'impression quand même que tu vois c'était son style parce que là on est en 97, c'est-à-dire l'année d'avant il y a eu la doublette Lil Kim Foxy Brown.
Ouais.
Qu'on expliquait que pour être une femme dans le hip-hop, fallait te mettre quasiment à poil sur ta pochette, tu vois. Et là, la meuf, elle fait mais un 180, c'est l'inverse complet.
Complètement.
Et ça marche aussi.
Même dans le discours, c'est toujours positif, Missy. C'est discours positif. Il y a pas d'avalanche de sexe, tout ça. Alors, ça s'explique peut-être certainement par aussi son physique. Elle pouvait pas jouer sur le côté sexy, tu vois. Et surtout le fait qu'elle.
Pourquoi pas après tout.
Oui, bien sûr. Complètement. Mais certainement, c'est un peu plus compliqué, on va dire.
Pourquoi?
Attention,
est-ce que ce podcast se fera striker? Attention.
Mais bon.
Non, je te charrie. Oui, bien sûr, elle jouait pas sur le sex appeal, c'est clair.
Exactement.
Du coup, elle jouait que sur les piles.
Voilà.
Parce que non, mais vraiment, elle était énergique, hein, je veux dire.
Alors, voyez, Missy.
Et du coup, parce qu'on parle de son style à l'écran, mais autour de l'écran, enfin, parce que c'est aussi la période, je vois ça, Hype Williams.
Oui, exactement. Il va beaucoup contribuer au succès.
Hype Williams, on rappelle, hein, c'est le. Comment on peut le dire? Le Steven Spielberg des
c'est la superstar, c'est des clips à $1 million aux États-Unis.
Non, ce serait plutôt le Michael Bay du
vidéoclip. Très bien,
Steven Spielberg, il y a quand même une notion d'artiste.
Oui, c'est vrai.
Alors que Hype Williams et Michael Bay, c'est des explosions, c'est prends mes dollars dans la gueule.
Tu regardais un clip de Hype Williams, tu savais tous les plugins de vidéos qui étaient sortis. Il les mettait tous.
Déjà, ça commençait, je vais vous dire comment. Ouais. Ça commençait par un plan au ralenti sur une île des Bahamas.
Hype Williams.
Et après, il y avait les bandes qui arrivaient. Les bandes en haut et en bas de l'écran, des bandes noires normalement. Hype Williams, ces bandes à lui, il y avait un film dans les bandes. Ah oui. Tu vois,
ça justifiait 200 000, ça.
Mais c'était pas le même film, parce qu'il aurait pu faire le même film que le film principal, mais lui, il mettait un autre film dans les bandes, et après, il y avait le clip au milieu, tu vois, et puis les bandes allaient défiler.
Ouais, parce qu'il y avait toujours son nom, c'est rare, un réalisateur de clip qui met toujours son nom.
Hype Williams. Si vous voulez avoir une belle idée du travail de Hype Williams,
c'est très qualitatif.
Vous regardez en fait ce que fait Booba.
Oui, grave.
Le Booba de l'époque Panthéon, je sais plus que c'est Chris McCary, et il a repris exactement le même délire. Même les bandes animées avec autre chose dans la bande.
Oui, complètement. Sauf que tu les avais à 500 euros. Bon, c'est pas grave.
Et puis surtout, tu l'avais 15 ans plus tard, en fait. Mais bon,
C'est ça. Et donc, au Grammy et au même TV Award, elle commence à être invitée. Puis alors, ils vont faire le titre Ladies Night. Tu te rappelles de ce titre? Lil Kim, Damrat, TLC. Donc, elle va commencer à faire partie un peu du showbiz, tu vois. Elle va rentrer dans le truc. Et elle va faire aussi, ça c'est quand même, là aussi on continue toujours dans le carton des artistes associés avec lesquels elle travaille. Elle va faire deux titres sur le petit My Love Is Your Love de Whitney Houston.
Ouais, ça n'a pas vendu ça. Non,
c'est un petit 10 millions d'albums aux États-Unis.
Époque Bodyguard, on est dedans ou pas?
Oui, je pense, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Love, tu vois. Et puis bon, ça fera, parce que bon, faut payer les factures, hein. Elle fera Mel B des Spice Girls.
Mais je crois que le premier album de Mel B, il a pas trop mal marché.
Ah non, ça a marché, bien sûr, ça a marché. C'était certainement le premier qui est sorti après les Spice Girls.
Ouais, ils sont pas cons, les mecs, hein.
Mais bon.
Mais oui, bon, d'accord. Mais en gros, bon, elle va là où il y a la thune, hein, on va pas se mentir.
Exactement.
Ouais. N'empêche que pour l'instant, le track record, c'est hit sur hit.
Ouais. C'est une machine. C'est vraiment. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est que Missy Elliott en France, on connaît assez peu. On connaît le nom parce que c'est une figure, tu vois. Mais on connaît pas tout ce qu'elle a fait.
Tout ce qu'elle a fait en.
T'imagines, là, on parle certainement de 50, 60 millions de disques vendus déjà, là. Ouais. Rien que là.
Ouais, toute la partie, effectivement, écriture.
Et c'est ce qui expliquera qu'elle va s'arrêter assez tôt.
Ouais.
Elle va s'arrêter assez tôt, elle va faire un long break parce qu'elle n'est pas obligée de sortir des albums. En fait, sa carrière de songwriter, producer, tout ça,
ça lui suffit amplement.
Et je pense certainement même que c'est ce qu'elle préfère, tu vois. Elle préfère certainement travailler pour les autres.
C'est un putain de confort, ça. Ouais. Je pense que c'est, ah, le, oui, bien sûr. C'est vraiment le bon truc.
Bien sûr, parce que tu touches autant que les artistes, hein, parce que quand t'es crédité.
Ouais,
tu
vois, ouais, carrément. Ouais.
Et,
mais bon. Quelle bonne idée, putain.
Ouais, on va peut-être faire ça, tiens.
Ouais. On va écrire des podcasts.
C'est Daz.
Faut du ça. On va écrire des podcasts pour les autres. Voilà.
Non, voilà, mais bon, il est temps de repartir en studio.
Ah, quand même.
Et oui, d'enregistrer le deuxième album. Un album qui s'appelle That Real World.
Ouais. Ah, mais arrêtez, vous jetez vos dollars au visage.
Ah là là. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça. Encore un carton.
Attends, j'attends le refrain. T'es tout dans mon barbecue, je sais pas ce que ça veut dire. Tu peux payer mes factures. C'est culotté quand même. Hein.
Ouais.
Elle a vendu 63 millions d'albums et elle demande quand même de payer des factures dans les refrains.
Eh, peut-être le dépenser 68, 69 millions.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Eh oui, eh oui.
Et donc, alors, ça, c'est évidemment All in My Grill. Ouais. Hein. C'est aussi produit par. Je ne demande même plus, mais.
Timbo.
Oui, okay.
Timbo. De toute façon, d'accord. C'est là, on n'est que dans l'essentiellement produit par Timbo. Ouais. Ça va être
alors,
trois
ça, c'est un carton intergalactique.
Carton. Alors, une petite dédicace. Hein. Ça sortait en juin 99, l'année où j'ai rencontré ma femme. Donc, je lui fais une petite dédicace.
C'est vrai.
C'est notre morceau.
C'est vrai. All in My Grill, c'est
ah, bien sûr, en juin 99, c'est la
putain,
c'est
sorti
ça, tu vois. Ouais, bah ouais, tu vois. Bon, en fait, c'est la gaffe. Mais bon.
Ah putain, si j'avais su. Ok, bah dédicace, ouais, dédicace à Agnès. À Agnès, bien sûr.
Je sais qu'elle nous écoute. Enfin, j'espère.
Elle a intérêt, ouais.
C'est clair, tu vois. Et non, voilà, tiens, j'ai pensé à toi, ce morceau-là. Ils ont fait un petit morceau pour Bagarre. Et avec un petit sample aussi, tu vois. Baby, ouais. Baby, I got that
good. Les bâtards. I like the way he used to spank me. He used to lie me on my back. Take that. He used to have me in a sack next back.
Eh oui, ça aussi. Qu'est-ce que ça a cartonné, ça?
Excusez-moi, hein, ça c'est pas un sample ou quoi, c'est juste ils ont repris l'instru.
Oui, bien sûr.
Oui, voilà, d'accord, ok.
Encore mieux.
Donc, pour les gens qui n'auraient pas reconnu, hein, donc derrière c'était évidemment Ain't No Fun de Snoop Dogg. Snoop Doggy Dogg à l'époque, ouais, d'ailleurs, Ain't No Fun, hein, qui disait donc c'est pas marrant, entre parenthèses, si les copains peuvent pas partager.
Exactement.
Les
putes. C'est fin de la parenthèse.
Bel esprit, ouais, bel esprit, ouais, le partage, ouais, avant
et
tout.
Et ce titre parce que donc c'est avec Dabrat et Maria Carey et ils reprennent exactement les mêmes intonations. En ouais, changeant les paroles et en remettant tout dans leur
contexte.
Dans leur contexte.
Bien sûr, donc c'est, bien ouais, sûr. Ouais. Ah, mais c'est facile, ça.
C'est facile, c'est... Bah, ça va faire 2 millions.
Ah, ben, bah, c'est facile. Il y a 2 millions pour changer le contexte. Ouais. Alors, c'est toute la finesse américaine, là, à l'œuvre. Hein. Ouais. Attention, attention, faut que ça soit subtil, faut que ça soit bien écrit. Eh, venez, on fait comme eux, mais à l'envers. Et après, il y a TLC qui a fait nos Scrubs, et t'as les Sportifs qui ont fait nos Pigeons, et ainsi de suite.
Et alors, petite anecdote, on parlait de vidéo. C'est ouais, pour les notes, cette vidéo, c'est la vidéo la plus chère de l'histoire. La vidéo de Mariah Carey, Breaker. La vidéo la plus chère de l'histoire des vidéos. 2,5 millions. Ah ouais.
2 millions et demi.
2 millions et demi.
Ça n'a pas été topé encore?
Non, non, jamais. J'avais appris tous les budgets ont descendu. Ouais. Donc, ils ont fait 2,5 millions, c'est un film en France. Hein.
Donc là, ouais, bon, enfin, c'est un film en France avec une caméra dans un appartement parisien et il se passe rien. Non? Ah non, j'ai ça, il dit non.
Non, non, c'est un film.
C'est un beau film.
D'auteur français.
Ah, ouais, c'est un film d'auteur.
Avec du matos.
Mais d'auteur, pas la hauteur. D'auteur, le. Ok. Ok, donc c'est un film de petit auteur, quoi.
Enfin, eux, là, c'est 4 minutes 5. 4 minutes 30.
Ouais, ben voilà, c'est ça. Mais du coup, il y avait quelque chose de notable dans un clip à 2,5 millions, quoi.
Des épaules de Mariah Carey. T'as
beaucoup d'effets spéciaux, là.
Sur beaucoup de brushing,
tu vois. Ouais, j'imagine.
Beaucoup de brushing, mais bon, rien de.
Non, mais je veux dire, il y a quoi? Il y a un avion qui s'écrase sur un bateau?
Non, non, même pas, je te jure, même pas, c'est
2005, il y a rien qui explose.
Mariah Carey, je pense que non, mais je pense qu'à l'époque, Mariah Carey, un clip pour Mariah Carey, ouais, 2 millions, ouais, vas-y, 2 millions.
Ouais, je pense que Mariah Carey, ouais, on ferait annexe, ouais. Tu vois, ça devait être costaud quand même.
Ouais, je pense, ouais.
Okay. Faudrait que je regarde sur YouTube, donc Heartbreaker, je vais le regarder pour juste me faire une idée de ce
qu'il y a. Tiens, voilà, tout à regarder, tiens, faites une petite pause.
Voilà 2 millions de dollars.
Comment dépenser 2 millions de dollars? 2 millions 5, hein. Attention, 500
ouais,
000.
Ouais, 2 millions, ouais. 500 000. On s'assoit pas sur 500 000.
Non, non, non,
okay.
Non.
Donc ça cartonne, évidemment.
Ouais, alors ça va faire combien, ça? 1,5 million.
Alors, excuse-moi, on est certes en progression par rapport au 1,2.
Attends, je vais finir ma phrase.
Ah,
et ah, 3 millions worldwide.
Ok, d'accord.
Ah oui.
Ok, 1,5 domestique.
Voilà, exactement.
Ok,
Donc on est rendu très, très, très costaud. Très costaud.
Ouais, bah oui, 4,5 millions total, ouais, on commence à être
là,
bien.
Ça, ouais, là, ça commence à être pas mal. Et alors... ce qui est intéressant, c'est qu'en 2000, donc elle va faire ce qu'elle qualifie, elle, le fait musical le plus important vraiment pour elle, c'est ce titre.
Ah l'enfoiré. Donc attends. Ça c'est la deuxième fois qu'on entend ce morceau du coup.
Ah oui.
C'est-à-dire que même Fizzlick, tu le fais sortir par la porte, il rentre par le Velux, il repasse par la cave.
Ouais, tu vois.
Donc à Memphis Bleek, pour les gens qui shoppent Six and Daz et qui n'ont pas écouté le backlog, c'était notre épisode 0. Ouais. C'était le pilote 0 ouais. comme les ventes et de Memphis Bleek. Faut le rappeler.
Ouais, non, mais, attends, on a fait fort quand même. On est venu, on a fait Memphis Bleek en pilote.
Ouais, bah ouais, on a peur de rien.
Ouais, tu vois.
Et donc là, c'est vrai qu'elle trouve que c'est le meilleur morceau ou c'est juste parce que toi, t'adores Memphis Bleek?
Pas du tout, ouais, c'est moi. Okay. C'est moi. Dommage. Je suis coupable.
Ok.
Ouais, coupable.
Bah, non, parce que ça aurait
pu. En fait, il fallait que je trouve une
raison de le mettre.
Tu vois, genre, il est bien placé, non? Qu'est-ce que t'en penses?
Ah ouais, non, il tombe bien, là. Il tombe bien. T'as endormi l'auditeur, là, tu vois. Et là, bim, tu lui mets un coup de Memphis dans la gueule. Ouais, non, balèze.
Ouais. Et donc.
C'est là, en fait, qu'elle a arrêté de vendre et qu'elle s'est fait jeter.
Non, je pense qu'elle a même pas vu ça. Son s'est revenu.
Attends, parce que. Donc, c'était Bleek featuring elle.
Ouais.
Il y avait Jay-Z aussi.
Oui, Jay-Z. En fait, en plus, on rigole, mais c'est un album qui a fait Gold, qui a bien vendu celui-là.
Gold?
500 000.
Selon tous nos standards, excuse-moi.
Oui, bien sûr. Mais bon,
ça, c'est même pas l'épaisseur du 13. Ouais.
C'est un titre, c'est certainement peut-être le titre le plus connu de Memphis Bleek.
Donc, c'est il faut vous dire le niveau de. Bon, enfin, ok. Donc, très bien. Donc, là on arrête là pour le deuxième album.
Je pense qu'on est bon pour le deuxième album, c'est le temps de troisième.
Eh ben, allez, on est parti.
C'est parti, tu vois.
Ah, bah oui, oh là là. Boy, I'ma
make you love me, make you want me. Et on repart, on voit, elle est très bonne chanteuse aussi, hein, ici. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Alors on commence à voir les sorties des synthés, là, pour parler.
L'autre, il se rapproche, là.
Ouais, alors, morceau, bon. C'est One Minute Man, hein, avec
One Minute Man, hein, homme une minute, bien sûr. Hein, on se demande de quoi on parle. Pour quelqu'un qui mise pas tout sur le sex appeal, j'ai quand même l'impression qu'on se fout de ma gueule. Mais c'est featuring Ludacris. Missy featuring Ludacris, c'est foutraque sur foutraque, là. Je veux dire, c'est Disneyland au parc Astérix. Non, mais tu vois, niveau image, parce que les deux, ils sont quand même assez lunaires dans leur
genre.
Ça doit être insupportable.
Et alors j'aime bien le titre, ça c'est un titre qui va te parler, ça toujours avec les petits jeux de mots, le titre de l'album.
Le titre de l'album.
Le titre de l'album, le troisième album.
Alors c'est quoi, c'est Miss E. Miss E, so addictive.
Ouais. T'as Miss E pour Missy, tu vois.
Miss E, Missy. Ouais. Ouais.
T'as, okay. T'aimes pas le jeu de mots.
Ah, il y avait un jeu de mots.
Bah la petite Miss E.
Ouais, Missy Elliott.
Voilà, bon, on n'en fera pas plus, de toute façon.
Missy. Ouais, non, je. Ouais.
Parce que ça s'appelle Miss, M-I-2-S, plus loin, I, la lettre E, pour Missy.
Alors que je trouve dire Missy.
Voilà, je trouve qu'il y a un effort, une recherche. Moi, j'aimais bien, je trouvais que.
Bah, c'était l'époque où on mettait des points de suspension dans les noms des albums. Voilà. Ah là là.
Alors, cet album, bon, il va vendre. Alors, un peu moins.
Voilà, on y arrive.
Quand on vend autant.
What goes up must come down.
Exactement. Donc, au total, ça fait 1,7 aux US et 1 dans le monde.
Alors, 1,7 aux US, progression constante.
On est sur une phase de progression.
Ouais,
exactement.
Par contre, le monde a arrêté d'acheter.
Non, le monde s'est dit non.
Pas celui-là, non.
Non, moi, je vais plutôt m'orienter Jean-Jacques Goldman.
Voilà. Ouais, bah, le monde a eu raison ou pas? Je me rappelle plus trop de cette. Alors, encore une fois, ça montre à quel point la musique de Missy Elliott est pervasive. Ouais. C'est-à-dire que tu l'entends comme t'entends un bruit dans la rue. Parce que moi, ce morceau, je le connais, je l'ai jamais de moi-même. J'ai jamais appuyé sur play. Tiens, je m'écouterai bien.
Mais même énergie de jouer, ça. C'était. C'est pour ça qu'elle a quand même des chiffres importants dans le monde.
C'est qu'elle est jouée sur les grosses radios tout le temps.
Ouais. Et alors, la critique, elle va avoir une critique de ouf sur cet album. Les gens vont considérer cet album, le troisième, comme un classique. Oui, vraiment. Il va y avoir les fans aussi. Il y a 89% sur Metacritic. Metacritic, ça vaut ce que ça vaut, mais 89%, c'est quand tu vois les gens, la façon dont ils en parlent, tout ça. Et le New York Times va le classer comme le meilleur album de cette année, qui est donc en 2001.
En 2001.
Et si tu regardes la liste, il y a des trucs, hein, y a des trucs très très lourds.
Mais Non, j'allais dire Chronique 2001, mais non, en fait, il est sorti en 99.
De 99, ouais.
Non, moi, ça va, alors, c'est bon.
On vous laisse deviner.
Moi, j'ai pas. Franchement, 2001, hein, je pense que c'était l'année où tu dis, ouais, j'en ai marre du rap.
Il y a Memphis Bleek.
Ouais, c'est bien ce que je dis. C'est l'année où tu te mets à écouter
autre
chose.
C'est toutes les époques qu'on a fait là.
Ouais, ouais, c'est horrible. Cameron et compagnie, là.
Exactement.
Oh là 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 là.
Et très belle année.
Alors, y a très bonne année pour la musique de Flipper, hein, ouais.
Et pour tous les bistrots qui commencent à. Et là, il y a ce titre aussi, on peut pas passer à côté.
Ah, bah oui! Missy B putting it down, I'm the hottest round. I told your mother, y'all can't stop me now. Listen to me now, I'm lasting 20 rounds. And if you want me, then come on get me now.
Aussi,
alors ça c'est bouffé, l'époque et bouffé. Si on mettait des samples de musique qui vient plutôt d'Asie ou d'Inde ou de je sais pas où
et sans l'éclairer et après ils sont pris une succession de procès.
Non mais c'est bon, ils nous écouteront jamais là-bas,
c'est clair. Ouais. Après, ouais. Welcome internet.
Donc ça c'est évidemment une prod si tu l'as pas entendu c'est que t'étais pas sur Terre à cette époque là. Ouais. Franchement impossible de l'éviter, tu l'avais partout.
Alors
partout,
tout se passe bien vraiment, c'est voilà, gros succès tout ça, mais
en 2001 fait néfaste. Et on parle pas du World Trade Center, ça c'est de la merde. On parle du vrai problème.
Et Alia va disparaître elle aussi très
tragiquement. Elle est morte la même année que les Tours Jumelles.
Oui, exactement.
Avant ou après? Avant, hein.
Oui, certainement, je sais pas, en fait, j'ai pas noté. Ah non, oui, en août 2001.
Putain,
accident d'avion.
Alia
aussi.
Et les tours
accident d'avion ou accident d'hélico, je sais plus d'ailleurs.
Non, d'avion.
Accident d'avion. Là aussi, on leur dit de pas décoller.
Ils décollent quand même.
Ouais.
Bah là, ouais, Alia, ils ont décollé avec, je sais plus, 600 ou 700 kilos de poids en trop quand même. Ouais. Ça fait beaucoup sur un petit avion.
Ouais, c'est clair.
Voilà. Bon, bah du coup.
Bah repose en paix, c'est quand même.
Ouais.
Alors. C'est pas grave, elle continue de bosser, elle va continuer à bosser encore et encore en Songrider avec Timbo. Ils vont placer cette fois-ci sur Aguilera, Lil Kim, Maya, c'est pas ça, Mia.
Ah oui,
ouais,
une petite
chanteuse très sympa. Tweet est là.
Ouais, tweet.
Je sais toujours pas
qui c'est, mais ok.
Moulin Rouge.
On l'a celui-là?
Non, je l'ai pas mis.
Ah, ça fait plaisir. Ouais, parce que
tu dis, on l'a déjà écouté la dernière fois.
Ouais,
c'est un titre qui va faire numéro 1 au Billboard. Hein. Numéro 1 au Billboard, ça c'est, on est sur de la perf.
Mais t'as vu
là.
Comment ils l'ont bourriné. Je me rappelle même plus qu'il y avait un film avec ce putain de truc là. Non, mais je te jure.
Le film est d'une nullité, mais alors naze.
C'est du Baz Luhrmann, c'est un peu quelque chose. Bah voilà. Il y a quelque chose quand même.
C'est vrai qu'il y a Apple Williams derrière tout ça.
Attends, c'est qui l'héroïne? Nicole Kidman?
Ouais, ouais, c'est ça, exactement.
Déjà, faire un film avec Nicole Kidman en héroïne.
Ah, bah à l'époque, attends.
Mais quel faux pas de.
À l'époque, en 2001-2002, non, Nicole Kidman, ça va quoi.
Bah à l'époque, elle est peut-être bancable, mais elle a toujours eu le charisme d'un pot de confiture, là, ça tombe bien, Lady Marmalade. Bah voilà, c'était ça. Non, mais c'était ça, en fait, il parlait de Nicole Kidman dans ce morceau. C'est l'intégralité, c'est.
Et si tu nous écoutes.
Nicole, c'est pour toi. Ok, donc ça, attends, alors ça c'est quoi? Ça c'était le troisième album. Hein.
Non, ouais, ça c'est le troisième album, ouais, exactement. Alors on va partir sur le quatrième, tranquillement.
Tranquille, hein, tranquillement. Je veux dire.
On a engrangé encore quelques petites.
Une année,
petites
un album, on n'a pas le temps.
Non, on n'a pas le temps, faut faire le. Mais justement, ça va poser un problème.
Ah!
Ça va poser un problème, un peu plus tard, on verra. Mais sur le quatrième album, donc il va s'appeler Under Construction, il va y avoir ce petit titre aussi. One time. Oh. Come on, is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you got a big one, let me search it. Beaucoup d'éléphants,
ouais. Ouais, pour remplacer le mot beat. Ouais, il est pas mal.
Alors, il va y avoir un mot. On va arriver là. Bon, c'est peut-être un peu plus tard, donc
on va. Attends, laisse les autres. Vas-y. Je Je rappelle, j'ai jamais écouté ce morceau.
Une glace of water. Alors, une glace of water.
Glace of water.
Ça, il va y avoir une, après, une ribambelle de gens quand ils vont demander des verres d'eau. Une glace of water.
C'est vrai?
Ça, ah oui, putain. Ah, moi j'avais mais des blocs qui, à chaque fois qu'ils parlaient de water, ils disaient plus water. Ils disaient water. Ça, c'est marrant. Le glace of water, ça a vraiment fait ça. Je te jure, même moi, je devais le faire certainement, tu sais.
Glace of water.
Et après, tu disais glace of water. C'était quelque chose qui était rentré, tu sais, dans le, tu vois, quand on parle anglais pour les conneries, on voulait un verre d'eau.
Glace of water. Ouais, c'est ce morceau que j'ai rentré dans ma playlist Spotify gimmick et trucs de merde. Ouais. Parce que tout le morceau est un gimmick. Ouais,
mais pas perf. Perf.
Ah non, mais perf, d'accord.
Perf, perf, ouais.
Mais putassier, ah, bien sûr. Putassier puissance 10 000. Oui,
mais c'est bien, c'est du gimmick. Hein. C'est du gimmick.
Ah ouais, non, mais là.
Elle a une façon de penser musique. C'est-à-dire que sa voix, ses paroles, c'est une mélodie, en fait, tu vois. Elle utilise ça comme ça.
Là, clairement, elle avait un dictionnaire, elle a fait je vais aller à facile. Ok. Et morceau de pute, ok. Et ben voilà, je vais faire un morceau de pute facile. Allez, c'est parti. Alors, ça a marché. Moi, je me rappelle de cet instru, surtout parce que. On parle jamais de la deuxième vague. On parle toujours de la première vague, le morceau qui sort. Mais après, pensez à tous ces putains de freestylers qui s'amusent à rapper là-dessus, là. Oui, sur leur face B, et sur les machins et tout.
Boys, c'est les B-Boys, ils ont tout pensé là-dessus aussi.
Oh là 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 là. C'est-à-dire que ce morceau, quand il sort, déjà, tu le manges bien dans ta gueule, mais après. Donc effectivement, tu le dis, dès qu'il y a un concours de danse, machin, ouais, c'est le mec qui break là-dessus. Ça,
ouais,
tous les freestylers sur Génération, ils chantaient sur ce morceau.
Ouais, vas-y, balance ce morceau-là.
Vas-y,
au début, le mec, il aurait mis un morceau de Bob Deep, c'est trop bien lent et tout. Non, vas-y, balance pas le Missy, là.
T'as pas le même avec des violons et un piano triste. Ok, donc évidemment, ça, je veux même pas regarder les chiffres.
Ouais, alors, ce sera la meilleure vente aux États-Unis, 2.2.
Ah.
Ouais, 2.2 aux États-Unis.
Donc, alors, encore une fois, du premier au quatrième album.
Ouais, on monte aux États-Unis, ouais, on monte. Et 1 million worldwide. Hein, c'est-à-dire que rien que quand t'as les chiffres worldwide, ça veut dire que si tu pèses.
Ouais.
C'est-à-dire qu'elle vend 1 million à l'extérieur des États-Unis avec un album spé. Enfin, on veut dire spé.
Ah oui, si, tubes, oui, là, on peut dire que c'est quand même. Oui.
C'est remarquable parce que c'est là qu'on voit que c'est une superstar. C'est vraiment une superstar. Alors que Missy Elliott, on n'en parle pas. On en parle très peu.
Ouais.
Tu vois. Alors que là, elle a vraiment marqué son esprit. C'est vraiment très, très, très fort. Tu vois. Alors. Cet album, il va être un peu différent, tu vois. Il va être un peu différent. Ça va être un son un peu plus old school. Ils vont beaucoup. Je sais pas si j'ai vu le morceau. Il y a le morceau avec le sample de Run DMC. Je sais pas si je l'ai. Non, je pense que je l'ai pas mis, tu vois. Et mais c'est un album qui est très comme ça. Ils vont prendre du old school, tu vois. Ils vont les Frankie Smith, tout ça avec Double Dutch. Et puis voilà, quoi. Bon, ça marche. Donc.
De toute façon, ils peuvent tout tenter. Tout marche.
Oui, exactement. Donc, mais parce qu'ils le font bien, je pense. Ils le font bien.
Ah oui, non, surtout, par contre, c'est efficace.
Surtout, ils ont fait une touch. C'est-à-dire qu'ils ont fait un truc qu'ils peuvent forcément l'exploiter à fond. Mmh. Parce que si toi tu fais ça, on va dire tu fais du timbo. Tu vois
ouais, bah
alors
oui,
qu'eux
ouais,
vont dire, bah non, nous on va en faire du timbo justement. Tu vois. C'est. Eh oui, c'est
clair. Ouais. Après, moi j'avais quand même espoir qu'au bout d'un moment les gens se rendent compte que c'est de la merde. Hein, donc ça va finir par aller. Mais c'est vrai que c'est efficace, puisque depuis tout à l'heure, hein, je faisais tous les morceaux, je les ai jamais écoutés tout seul. Donc c'est
alors,
que ça marche. Hein.
Alors en 2003, on continue. On va produire à côté pour Madonna, Beyoncé, Wyclef. Elle va même signer un deal avec. La marque
Wyclef.
Ouais, elle a fait un ou deux titres sur Carnival, je crois.
Ah oui, ah bah oui. Ouais, bah oui, ça m'étonne pas. Ouais.
Okay. C'est un bon album, ça, Carnival. Ah,
oui, ouais, très, très bien. Surtout quand t'arrêtes de l'écouter, en fait. Il est magnifique. Hein. C'est un bel album.
Non, non, très bon. Franchement, c'est un album festif. Et, donc, ouais, alors, et là, on voit que c'est fort parce qu'elle va signer donc, avec une super marque, une grosse marque aux États-Unis, mais en France maintenant, Gap. Elle a signé un deal.
Ah oui, Gap.
Ouais, elle a signé un deal, elle va faire des pubs, et dans la pub, il y a Missy Elliott et Madonna.
Ben voilà, donc une pub à 2 millions.
Tu vois, par personne. Enfin, ouais. Et donc, c'est quand même pas mal, tu vois, c'est.
Putain, ouais. Mais la thune! Mais j'aimerais bien savoir combien elle pèse financièrement, la meuf, parce que là, je sais pas.
C'est pas, mais si tu veux le trouver, ça, dans
là, c'est, de... là, c'est Michael des... Bloomberg, là.
Ouais, non, c'est. Tu peux le trouver, ça, j'ai pas pensé à regarder.
Parce que tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est des rentrées d'argent de ouf. Tu te dis, mais pourquoi elle le fait, même?
Ouais,
là, elle a pas besoin, je veux dire, c'est vraiment le.
C'est exactement ça, tu vois. Et bon, eh ben, elle continue, ils vont continuer quand même avec un cinquième album, avec ce titre.
Tiens, c'est marrant ça. Ça me dit rien du tout.
Eh ben, c'est normal. Ah, parce que ça va commencer à être l'album de trop. Ah. Et donc, ça commence à se voir.
Je suis une peine dans ton rectum.
Tu vois, alors, ça c'est. Alors, c'est vraiment.
Bah, déjà, c'est. Enfin, là, au niveau de l'instru et tout, c'est work it. Hein. Donc, c'est littéralement l'album d'avant. Et même au niveau de, des placements et tout, c'est
oui, oui, voilà. Mais c'est l'album de trop. Et elle va se justifier. Parce qu'elle va le voir, les ventes, c'est 1 million aux États-Unis seulement.
Ah, donc ça veut dire que, alors shoot. Là, le world, il a dit bon, ouais.
Ah oui.
Mais les gars, ça suffit.
Ah, ça, c'est pas jouable en ouais. Europe, tu vois, par exemple. C'est très, très spé. Et elle le dira vraiment que c'est le label qui l'a poussé à sortir. Elle avait un contrat, et ils lui ont dit, il faut sortir l'album, et donc, elle l'a sorti trop tôt, trop tôt. Il est sorti en novembre 2003, alors que celui d'avant était sorti en novembre 2002.
Bah, un an, c'est bien pour ouais, les
mais,
Américains.
Mais elle considérait que c'était beaucoup trop tôt pour pouvoir peut-être se diversifier, passer
ah
à
oui.
autre chose, tu vois.
Ah oui,
parce
d'accord.
que elle devait le sortir aussi. Là, bon, c'est,
en fait, c'était ça. Plus un,
ouais.
un,
des
DLC
textos,
sur l'album précédent, en fait.
Ouais, voilà, exactement.
C'est ça.
C'est, ouais. ça, c'est exactement ça. Très bon, ça. Très bon. Et bon. Alors voilà, de toute façon, comme on sait, tout ce qui monte,
bah oui.
c'est physique.
Hein. Bah ça, c'est Newton.
Tu vois, alors, elle va faire quand même un petit hit avec Ciara, One Two Step.
Bah oui, connu.
C'est pas mal. Et puis, elle va faire un reality show. Alors, souvent, quand tu commences à faire un reality
ouais.
show.
Ouais. Non, en général, c'est que ta carrière, elle commence à prendre un virage.
Tu vois,
ouais.
c'est. Et en plus, le titre. C'est.
C'est quoi? Oh là!
The Road to Stardom with Missy Elliott. Ah, c'est pas terrible ça. Quand tu sens que t'as besoin de faire ça,
ouais.
c'est qu'il faut que tu
surtout boostes, le chemin
vers les étoiles,
le chemin
quoi,
vers la célébrité, quoi.
La célébrité exactement.
Alors que la meuf elle a tout éclaté
vois,
depuis
et ça je pense que c'est parce qu'elle n'a jamais fait la promotion de son travail en fait. On la connaît pour les albums. Moi franchement j'ai
ouais.
découvert tout ce qu'elle a fait franchement
ouais,
moi je pensais
vrai.
Qu'on allait faire Missy Elliott. Je pensais même honnêtement qu'on allait faire Missy Elliott et Timbo parce que je me dis bon Missy Elliott ça a dû te régler. Mais après tu vois tout ce qu'elle a fait. Bah c'est vrai, enfin il y a 6 albums hein, tu vois, il y a 6 albums
ouais.
On est à l'avant dernier là et puis en fait non, il y a tellement de choses à faire, tellement ouais. de choses à raconter et qui justifient, enfin qui te font comprendre pourquoi en fait il y a plus d'album après que là elle va faire son 6e album
ouais.
Et d'ailleurs elle a commencé pour le 6e album prendre quelqu'un d'autre que Timbo parce que je pense que ah, ils ont dû se dire, on n'a pas trop bien vendu là, qu'est-ce qui se passe? Donc, Michel a dû dire, bah, c'est peut-être toi, il faudrait que t'arrêtes les bouches. Il faudrait que t'arrêtes les gargaris en studio. Bah, non, c'est peut-être toi, il faudrait que t'arrêtes de faire les.
Mais attends, parce que, est-ce que dans le même temps, Tim Allen, il a su.
Oh, lui, renouveler... il est parti à Justin Timberlake là.
Oui. Ouais, enfin, Justin Timberlake, le premier album, là où il y a, bah, alors oui, lui, il a fait Cry Me a River, mais je veux dire,
après,
la moitié de l'album, c'est Pharrell, enfin, c'est les Neptunes.
Mais après, il y a l'album Timbo qui va cartonner. Celui avec le One Republic et tout ça là, le
oui d'accord,
cartonné, et l'album de Timberlake juste après
ouais.
qui va exploser, et là c'est vraiment Timbo,
c'est Future Sex Love
ouais,
Songs
ouais, exactement. Alors,
c'est incroyable là, lui.
Putain
c'est vrai.
Ah oui, c'est vrai. Chacun va tu vois
donc en fait il se sépare, mais finalement Timbo il est pas laissé sur le côté.
Non, pas du tout, de toute façon c'est lui qui lui a dit arrête des chat autre chose, tu vois.
Donc elle a dû lui dire arrête tes bruits de bouche, et lui a fait ouais ben ratatatata
dans le studio, t'es des engueulades. Ça va être super, tu vois. Super, tu vois.
Donc, elle fait quand même ce
sixième album. Elle fait quand même, je pense que c'est contractuel, il faut le sortir.
Ouais.
Elle le sortira en juin 2005 avec ce titre. Music make you lose control. Music make you lose control. Ah, c'est dédicace à tous les b-boys. Ouais.
Extra balle. Extra balle.
Hey, c'est un single qui a énormément marché. Ça, c'est voilà. On parle justement des b-boys tout à l'heure. Ça, c'est un morceau. Tu vois, dans tous les Red Bull, tu sais, Dance Contest, tout ça, c'est un classique.
Ouais.
C'est un classique. Sur les Champs-Élysées, ils sont là, ils dansent là-dessus. Ah oui, ça va partir direct. Bah, ça, c'est ouais. direct. Tu vois. Ça va cartonner, ça va faire 2 millions le single.
Le single, hein, pas l'album.
Single,
par contre.
L'album, malheureusement, va faire mal en descendre en dessous du million. C'est vrai qu'on a une musique, des fois, tu sais. 650 000.
Aïe.
Je pense que le crédit, là, il est pas remboursé. Là, faut vendre la main chaîne, là.
Ouais.
Faut commencer.
Bon, enfin, en même temps, elle a eu de quoi mettre de côté avant.
Oui, surtout, je pense qu'elle a été assez intelligente pour pouvoir gérer tout ça.
Donc et ça, là, on est quoi? On est en 2005.
En 2005. Et justement, c'est ce qui est intéressant, c'est à quel moment. Et là, elle va être intelligente puisqu'elle va arrêter sa carrière au niveau des albums.
Ouais, elle n'a pas essayé, tu vois, de.
Non. Et c'est ça qui est intéressant, et on en discute tout le temps. À quel moment un artiste il peut se dire
j'arrête.
2 minutes. Vous avez 2 minutes. Vous, si réfléchissez, c'est vous. Non, c'est, tu vois,
non, mais c'est
toujours dans des chutes.
C'est une vraie question. Ouais.
Est-ce qu'on peut arrêter? Est-ce qu'on peut arrêter quand on est en haut? Est-ce qu'on peut se dire, tu vois, c'est pas facile. Hein.
Tu peux te faire plus rare.
Ouais.
Mais c'est-à-dire espacer. Tu fais un peu un truc à la Jay-Z, c'est-à-dire que ouais. Jay-Z sur son quatrième album, il a fait. Vous savez quoi, c'est le dernier. Puis après, il en a fait 17.
Bien sûr, oui. Tu peux faire le la
ça, fausse retraite. C'est mon black album.
Voilà.
Allez, après j'arrête.
Oui. Ouais. C'est la fausse retraite.
Gros Tommy, ouais.
Je pars, j'arrête, et après je reviens.
Ouais. Non, sinon tu peux te faire un peu plus rare. Ou en tout cas, comme disait Wu-Tang dans cette pub pour la banque Wu-Tang. N'importe quoi. Vous avez pas vu ce sketch là?
Ma banque, c'est le Crédit Agricole.
Non, mais c'est vrai, ils appelaient ça, je sais plus, Wu-Tang Financial Services.
Non, j'ai pas vu ça. Non.
Et c'est genre un truc du Saturday Night Live où t'as tout le Wu-Tang, mais dans une banque. Avec, tu vois, des mecs qui parlent à des banquiers et donc les mecs sont là. You should diversify your bonds, my nigga. Tu vois, et ça balançait des trucs comme ça, c'était très drôle. Et je pense que justement, les mecs doivent diversifier leurs trucs. C'est-à-dire que, une fois que tu vois que tu commences à tanker au niveau vente en tant qu'artiste, artiste solo, t'essaies de produire des petits, t'essaies
Surtout mais qu'elle, elle, en plus... Ça doit pas être évident. Hein.
Ouais, elle était coulisse woman, en fait.
Bien sûr.
Donc, elle a déjà le background où elle sait exactement comment faire pour, en fait, ne pas être sur le devant de la scène.
C'est pour ça qu'elle va arrêter.
Bah, enfin, elle va arrêter ses albums.
Ouais, ses albums.
Mais j'imagine qu'elle a continué à charbonner.
Bien sûr, complètement. Mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que...
Mais il y a l'ego, après, où tu dis...
Parce que c'est vrai que tous les artistes, la plupart des artistes qu'on traite, malheureusement, il y a toujours une chute et une chute lourde, hein.
Ouais.
La dernière fois, on est parti sur des chiffres à 5000, je crois, Fat Joe, à la fin, quoi. T'as vu, 5000 albums, quoi. Putain, achète-les, quoi. Achète 15000, achète 20000, c'est un chiffre. Tu vois. Enfin, je sais pas, tu vois, tu te dis, le mec, il laisse passer 5000. T'as pas envie de dire, bon, combien j'ai, là? Vas-y, on va acheter 20000 albums.
Ouais, mais attends, tu dis ça, Fat Joe, à ce moment-là, son distributeur, c'était une clé USB, tu vois. Enfin, non, mais je veux dire, le mec, il avait plus de label, il avait plus personne.
Oui, bien sûr. Ah, bien sûr, complètement. Mais bon.
C'est limite, il a mis l'album sur sa frigo. Voilà. Allez-y, téléchargez-le. Voilà.
Mais on arrivait là, ça fait mal au cul.
Après, bon, encore une fois, 650 000 à l'échelle américaine, c'est nul. À l'échelle française,
C'est énorme.
T'es disque de triple diamant.
C'est énorme, mais imagine le chiffre dépensé pour arriver là. Parce que, attention, on est sur du clip.
Attends, honnêtement, juillet 2005, est-ce que la maison de disques...
C'est vrai que c'était la crise.
À mon avis, vous étiez tous en train de chialer. Oui, le téléchargement.
Napster.
C'est la merde.
Napster, attends, deux jours pour télécharger. Bon,
est-ce que vous voleriez une voiture?
C'est vrai qu'il y avait ce débat là.
Voleriez-vous une voiture?
C'est vrai qu'il y avait ça.
Si tu me permets de la télécharger, plutôt.
Ah, c'est vrai ça.
Tu te rappelles le truc là avant les films?
On le disait toujours.
You wouldn't download a car.
Genre, ils pensaient, ah, bon, j'arrête alors. Oh, il a raison, j'arrête. Tiens, hop, j'arrête mon divice.
Mais ils étaient anxiogènes en plus, hein, ces messages sur le piratage. Ouais. Mais vraiment, en 2005, on était à fond. Enfin, vous là, je dis vous, les maisons de disques, mais je te regarde toi. Ok. Vous étiez dans le creux de la vague, là.
Moi, c'est l'époque où j'ai commencé, vraiment, 2003-2004. Nous, on a commencé dans le dur. Il n'y a pas de budget.
Ah ouais, c'est-à-dire que toi, t'es arrivé au moment où tout le monde se barrait, quoi.
Certainement, c'est peut-être pour ça.
C'est pour ça que t'es arrivé. Ouais.
Tu sais, certainement, tu vois. Ah, vous partez? Ah bah, attends, je vais voir ce qu'il reste.
C'est-à-dire que ce que vous considérez comme beaucoup trop peu, pour moi, c'est parfait.
Mais bien sûr, parce que nous, on venait de France, tu vois. Forcément, nous, on arrivait là-bas, 20, 30, 40 000, c'était énorme pour nous, ça.
Ouais. Ah bah oui. Toi, les 5000 de Fat Joe, tu les prends.
Bah, bien sûr. Attends, grave.
Il faut savoir rester modeste. Ça, c'est, voilà ce qu'on aura appris. Donc, du coup.
Alors, le petit best-of, toujours, quand, parce que quand ça va en plus, on sort un petit best-of. C'est celui-ci.
Ah oui.
Le Respect Me, tu vois. Un petit best-of qui va faire 500 000, tu vois. Alors, ça coûte rien. Puis bon, tu vends 500 000.
Ah bah là, tu vois. Ouais. Surtout que là, littéralement, le best-of, à mon avis, tu mets ça là, ton.
Ah bah là, t'as tout. C'est un bon best-of en plus.
Ah là, tu bounces.
Qui cartonne,
ouais. Ah bah oui.
Et puis bon.
Ah bah oui.
Ouais. Et donc un septième album qui lui va. Enfin, qui est dans l'air du temps, mais elle en parle sans jamais vraiment le repousser, tu vois. Alors il va y avoir quand même des tests. Ils vont sortir des tests, tu sais, des titres à droite à gauche. Donc ce titre avec Timbaland. Yeah. Yeah. Check. Now I'm in a knife in it. Thought I fell off, ain't quite finished. Et on sent que c'est plus ça, quoi. Il y a pas.
Bah, c'est à dire que quand Timbaland fait du mauvais Scott Storch.
Ouais. Du mauvais Scott Storch mélangé slash Avoc.
Elle kick, hein, quand même. Hein.
Ah oui, non, bien sûr. Elle fait le taf, mais. En 2012, tu vois, c'est ça en 2012.
Le morceau s'appelle comment? Ninth Inning.
Ouais.
Donc, la neuvième manche au baseball.
Ouais, c'est ça,
C'est-à-dire celle où déjà tu dis, qu'est-ce qu'on fout là déjà?
Ça fait 4 heures qu'on est là.
On a commencé le match à 4h30. C'est un peu relou, tu vois. Ouais, et en fait, ça, c'est un problème des artistes. C'est que quand ils reviennent, alors qu'on leur a rien demandé, ils t'expliquent quand même que ouais, mais la vie, c'est un marathon. Tu vois, mais en fait, ta gueule. T'aurais très bien pu continuer à courir ton sprint, on t'a rien demandé, tu vois. Et donc là, c'est ouais, c'est la neuvième manche.
C'est pour ça que je pense que personne s'en souvient.
Ah ben non, déjà pour s'en souvenir, il faudrait déjà s'en venir. Et moi, je m'en venais pas même pas. Donc, ok.
Donc voilà, bon. Alors, elle va quand même continuer, tu vois, elle va faire du Keisha Cole. C'est pas mal, hein.
Ah, bah, Keisha Cole, oui.
Monica, Jennifer Hudson.
Ah, Monica, oui.
Et puis un petit groupe.
Ah, bah oui, Jennifer Hudson, bien sûr.
Au carton. Et surtout, un petit groupe aussi qui va marcher pas mal, les Pussycat Dolls.
Ah, Don't You et tout là.
Ouais,
c'est elle qui a écrit ça.
Oui, bien sûr, oui. Sûr, c'était même Timbo à la prod.
C'est pour ça que je déteste et que je connais pourtant.
Alors ça, je crois que c'est 12 millions, 13, 14 millions, c'est un chiffre complètement ouf, les Pussycat Dolls. Et en 2015, belle consécration, franchement, pour elle, parce qu'elle va faire le halftime show. Du Super Bowl, le 50e en plus. Hein.
Oh!
Oui, oui, avec Katy Perry. Ils feront à deux le show. Et ça, c'est vraiment la consécration. Pour un artiste aux États-Unis, faire le halftime show, c'est-à-dire le show à la mi-temps du Super Bowl, c'est la consécration. C'est vu par 120 millions de spectateurs aux États-Unis. Ils disent 1 milliard dans le monde.
Mon cul, ouais. Ouais,
mais bon. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça veut dire que c'est une consécration.
C'est une belle scène. Ouais. Si t'es moins coté que le Super Bowl, généralement, tu fais le halftime show au All-Star Game NBA.
Ouais.
Et là, je peux vous dire, je sais pas qui est-ce qui va se taper le halftime show bon courage, du mois prochain, là. Mais putain, ça va sentir Kobe à tous les étages. Ça va être, tout le monde va chialer, je vous le dis, hein. Si jamais vous êtes artiste et qu'on vous appelle, décrochez pas le téléphone, parce que là. Là, ça va juste être là pour afficher des photos noir et blanc de Kobe et de Gigi, qui le repose en paix, bien entendu.
Bah oui. Alors, elle va quand même donner un nom à son 7e album, histoire de, tu vois, ça devrait s'appeler Block Party.
Ah bah tiens,
Block Party, tu vois.
Ça s'est jamais vu en plus.
Et prod par Timbo et donc un nouveau collègue, Pharrell, qui devrait se joindre à la troupe. Et ils vont essayer de sortir un titre aussi que j'ai trouvé, qui lui va sortir en 2015. C'est ce titre. Don't move fast, make you think you're drinking. Get to the flow, don't collect that dough. You better huddle up, cause the beat's so cold. Production Pharrell. Pop that cock, get me low. This another hit, I got an ace in the hole. Boys on my back, player, did you pick that? You got a small stack, player, you can keep that.
Bah pourquoi pas.
Pourquoi pas, mais bon, pourquoi quoi.
Oui,
c'est vrai. Pourquoi. En fait, quand il n'apporte rien, on ne fait rien. Tu vois. Là, on est autour de 2015.
Tu ne veux pas reprocher à une meuf de faire elle.
Oui,
parce que je veux dire, c'est son style.
Complètement. Mais c'est étrange, c'est ce qu'on en revient, de toujours vouloir sortir quelque chose. Tu imagines le carton, elle fait encore des chiffres de ouf en production, tu sais, tout ça, mais elle continue, en songwriting, elle continue à, de temps en temps, à tester le terrain. Tu vois, pour un homme qui ne sortira jamais, certainement. Sortira jamais,
oui, ça. Elle est habituée, de toute façon. On est d'accord, il n'y a pas de 7e album, en fait.
Non, il n'y a pas de 7e album. Elle va encore, et là je le mets parce que c'est la dernière sortie qui est sortie, donc mois d'août 2019, donc il y a 6-7 mois.
Ouais.
Ce sera ce titre. C'est
pas mal. You tryna get me, you get black. Yeah. Unless you tryna marry me. My ring must be big as a rock. I open up my candy shop, my panties drop, you see that I got. I got the strawberries and berries, that chocolate slice, all in a box. Boy, you better stop. On notera que ça, tu vois, j'aime bien.
Yeah.
Et on notera quand même le style de rap.
Ouais.
Parce que effectivement, déjà le style musical, là, t'entends les charlets, les machins, les trucs et tout, elle s'inspire bien de ce qui se fait, tu vois. Mais il y a un côté R&B que moi j'entends pas trop ces derniers temps.
Ouais,
par contre, quand elle kick là, elle rappe comme les Weezy et tous les petits.
Ah, mais elle est très forte. C'est un super talent. Malheureusement, je pense que t'en avais pas entendu parler.
Non, et c'est dommage parce que je l'aurais bien goûté.
Tu peux y aller, il est sur les plateformes.
Il est sur Spotify.
Oui, il est pareil, partout.
Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Iconology.
Ouais, Iconology.
D'accord.
Non, le morceau, ça
va. Non, l'EP,
c'est un EP.
Ouais.
Et le morceau s'appelle Drip de Menor.
Mais alors, attends, donc elle fait 6 albums et après, elle fait un EP à la fin.
C'est un petit EP, de 3-4 titres. C'est là que tu trouves ce morceau. Bon.
Histoire de,
bah, tâter le terrain, tu vas voir si j'existe toujours, est-ce que les gens ça les intéresse ou pas. Ou alors juste, par plus kiff, ça peut aussi, elle peut aussi sortir. Maintenant, aujourd'hui, tu sors un album quand tu veux.
Ouais.
Donc, peut-être qu'elle met quelque chose qu'elle a trouvé sympa en studio.
Peut-être qu'en fait, son problème à elle, principalement, c'est que quand elle a pas l'artillerie, parce que finalement, elle a cartonné jusqu'à ce que les majors se pètent la gueule. Et finalement, la question, c'est est-ce qu'elle sait se marketer elle-même, en fait. Parce que finalement, tu fais ce que t'as toujours su faire, ok.
Oui.
Et bizarrement, tu te mets à moins vendre quand les maisons de disques elles se mettent à se braquer la gueule. Ouais.
Mais comme on dit, c'est 10 ans de domination aussi, tu vois.
Ouais.
C'est quand tu fais 10 ans la même chose. Franchement, je pense que c'est unique. Même Michael Jackson, qui l'avait vraiment rompu quand il était l'artiste, c'est l'artiste ultime.
Ouais.
Même à la fin, il vendait plus tant que ça, tu vois.
Il vendait rien. Même.
Tu vois, c'est donc on en arrive à un moment où je pense que les gens
qui vend en fait. Ouais.
Que je pense en fait, c'est une question de génération. Je pense que les jeunes qui arrivent, qui voient leurs parents écouter quelque chose, automatiquement, ils ont un réflexe de oh, bon, j'écoute pas ça, j'écoute les nouveaux, tu vois.
Ouais.
Ça, c'est une musique de vieux, quoi, presque, tu vois. C'est moi je l'ai vu, hein. Michael Jackson, je fais écouter à mon fils. Bah, il dit ouais, bah, c'est un peu vieux, quoi. C'est un peu, tu vois, c'est pas ce qu'il écoute lui. Ce qui est, alors plus tard, il fera sa propre.
Bah oui, en fait, tu reviens dessus. Moi, je reviens pareil avec les trucs de mon daron. Et
tu vois, exactement.
Quand j'écoute, voilà, mais...
exactement. Tu vois. Ouais. Je pense que c'est un automatisme. Tu vois, de rejet.
Ça veut dire qu'en 2040, on va se manger. Des...
on va se manger des remakes de Future Rock.
Une catastrophe.
De Nekfeu.
Quel enfer. Quel enfer.
Tu vois, et donc voilà quoi. Et donc, on arrive à la conclusion, tu vois, de cet épisode qui était très.
Et alors, c'est quoi la conclusion du coup?
La conclusion, je dirais que c'est la superstar. Ouais. C'est, on parlait de Lil Kim, la Queen. Tu vois. Ouais. Moi, je pense que si il y avait un mot, superstar et Queen du hip-hop, ce serait pour Missy Elliott pour moi.
Ah ouais.
Ouais, ah vraiment, vraiment.
Ah le mec.
Là, j'y vais cash. Là, je suis déterminé. Ouais.
Alors c'est marrant parce que alors comment positionner ça dans des termes qui ne donnent pas l'impression que je chie sur l'artiste.
Attends, pour rajouter à ça, ouais. Là je parle de chiffres parce que j'aime bien les chiffres.
Oui, tu
pendant 15 ans.
Là il a des dollars ans. Dans les attention. Yeux quand
tu parles. Ouais. Bah, pendant 15 ans, elle va détenir le record d'album hip-hop vendu. Et attends, Lauryn Hill, devant Lil Kim, devant Eve. C'est-à-dire que pendant 15 ans, elle va être la femme qui a le plus vendu d'album hip-hop. C'est grave, c'est pas rien.
Bah, c'est-à-dire que pendant 15 ans, elle a fait des albums aussi.
Oui,
parce que là, tu me parles de Eve.
Oui.
Bah, bon, bah, tu vois un peu la fusée
bien sûr,
Challenger.
Bien sûr, non, mais.
Voilà.
Il n'y avait pas grand-chose.
C'est sa carrière.
Il n'y avait pas grand-chose, tu vois, en face. Mais il fallait le faire. Lauryn Hill, tu vois, bon, un album.
Lauryn Hill, la meuf, on est en 2020. Elle continue à être en retard assez chaud pour faire son putain de seul album qu'elle a fait dans toute sa vie.
Vrai,
ah non.
Bah, tu vois, c'est. Eh ben.
Alors. Moi, ça me fait triper. Lauryn Hill en concert, alors je le dis aux auditeurs, n'allez pas la voir. N'allez pas la voir parce que de toute façon, elle va se pointer à 23h45. Minuit, merci, il coupe tout. Donc voilà, c'est terminé.
Et elle va continuer genre, pourquoi il coupe?
Oui, et après elle va dire, oui, c'est Bercy, c'est pas bien le promoteur.
On ne renforce pas. Je garde tout.
Cet escroc, là. Franchement, ça, c'est le moment Nutella.
Oui.
Hein.
Oui, bien sûr.
C'est tous les gens qui crânaient sur Twitter. Ouais, je vais voir Lauryn Hill, Alors que les vrais routiers.
Ils savaient, quoi.
On a vu ça, on a dit.
Bah oui, parce que c'est l'historique. L'historique. Déjà, je suis étonné qu'elle soit venue, toi.
Ouais. Mais en fait, il y a que eux, il y a que ceux qui ont pris des billets qui étaient étonnés. Moi,
sur Twitter, sur tout ça, tu voyais les vidéos des meufs qui pleuraient, qui étaient en larmes, qui disaient plus jamais Lauryn Hill. Eh oui, bon, bref.
Et oui, car Lauryn Hill a un track record. Elle ne vient jamais, et surtout, elle n'a fait qu'un seul putain d'album dans sa vie. Qu'est-ce que vous attendez qu'elle fasse en concert?
Ouais, une demi-heure, c'est sûr.
Tu vois, c'est comme en 95, il y a Warren G qui est venu en France. Les gens y sont allés. Je rappelle, premier album de Warren G. 32 minutes, en comptant les interludes. Et les gens, au bout de 32 minutes, ils ont dit « Ouais, quand même, c'était un peu court comme concert !» Mais mec,
c'est ouf, ça. C'est
mais t'attends quoi? L'album, il dure 30 minutes. Le mec, il va pas te faire 6 heures de spectacle. Enfin, c'est n'importe quoi.
Non, je vais jongler. Elle aurait pu se diversifier un peu, tu vois.
Non, mais ouais, reprendre peut-être un ou deux morceaux des copains, tu vois. Mais bon, voilà, tu peux pas non plus créer de la matière là où il y en a pas. Donc c'est pour ça que tu dis oui, Missy Elliott, elle a trusté les charts en tant qu'artiste hip-hop féminine, je suis complètement d'accord, mais en même temps, c'est peut-être la plus prolifique.
Ah, bien sûr, mais combien? Puis certainement, celle qui a la plus grande éthique de travail, la plus.
Et oui, celle qui charbonne. Ça, clairement, on ne peut pas lui enlever qu'elle a charbonné.
Ouais. C'est, après, c'est 30 millions d'albums, hein. 30 millions d'albums vendus, c'est pas mal. Hein. Là, on arrive dans les chiffres de stars, de pop-stars.
30 millions
d'albums physiques de cet album à elle.
À elle?
Ouais, au total, c'est pas mal. Hein.
Mais c'est pas possible.
Bah, au total, ouais, quand tu cumules tout ça, si, ça fait 30 millions.
Ah, bah écoute, alors tu sais ce qui va se passer là? Tu sais ce qui va se passer? Parce qu'en fait, on a. On a largement le temps. Je vais compter. Ok? Alors.
2 plus 2.
Attends. 2 plus 1, 2.
Bon, j'ai pas tous les chiffres worldwide.
Ça fait 3-2. 3-2 plus 1, 5.
Ouais.
Ça fait 4-7. 4-7 plus 3. Ça fait 7-7. 77, c'est des marres. 7-7 plus 2. Ça fait 9-7. Oui, ben, surtout le mien. C'est normal. Ouais. Là, je suis à 9 millions 7. Troisième album, 1 million 7, 9 millions 7 plus 1 million 7, 10 millions 7, 11 millions 4.
Ça fait 30 millions, bon.
Ouais. Attends, 11 millions 4 et 1 worldwide. 11 millions 4 et 1. Ouais, non, on n'est pas.
On n'est certainement pas à 30 millions. On n'est pas à 30 millions. Chiffre, c'est le chiffre des autres disques.
Je pense qu'on arrive à peine aux 20.
Ouais, ouais, voilà.
J'ai l'impression que t'as gonflé les vues.
Bah, du coup, j'ai des petits chinois qui.
Voilà, et voilà. Et voilà, il fallait qu'on se fasse striker pour une raison. Bah voilà. Voilà, on aura attendu 1h15 d'émission et puis voilà. Non, alors que retenir de Missy Elliott? Une carrière prolifique.
Ouais. Et puis, une image aussi de positivité, tu vois. C'est encore une fois,
oui,
c'est
oui.
Tu vois, c'est comment dire, l'égalité, c'était la positivité tout le temps, tu sais, aussi bien son physique, ouais. L'égalité des chances. Elle a toujours un discours positif et c'est quelque chose de remarquable, tu vois, elle a une bonne image.
Ouais.
Une bonne image, tu vois.
Et si vous avez une tantine qui met des perruques rouges, on a l'impression qu'il y a un oiseau qui est mort sur sa tête, c'est aussi en partie grâce à Missy Elliott,
ouais,
on va pas.
C'est vrai qu'à cette époque aussi, ils avaient tous
Ah ben non, mais là tu vas à Château Rouge. Là aujourd'hui, hein,
ouais.
En l'an de grâce 2020,
ouais, ouais.
Tu vas du côté de Strasbourg-Saint-Denis là, bah tu vas aller voir les coiffeurs afro là avec leur tissage étrange là et venu d'ailleurs.
Non, et d'ailleurs, alors, vous remarquez aussi, elle n'est jamais revanchard par rapport à son enfance et tout ça. Tu vois, jamais pleureuse, jamais, tu vois.
Ah oui, non, alors, d'ailleurs, tu me l'apprends parce que j'étais même pas au courant.
Ah ouais.
Elle a dû faire un morceau piano triste pour expliquer. D'où
ouais, mais en tout cas, c'est pas.
Mais après, un piano triste avec Timbaland,
ouais,
c'est un peu compliqué.
C'est vrai, c'est compliqué, tu vois, c'est clair. Et puis voilà, bon, ce qu'on peut dire, elle a inventé un style, ça c'est quand même remarquable aussi. Et puis, quand je regarde, il y a la liste des prix. Alors, c'est des Grammys, mais pff, à la belle. Ouais. Elle est dans le Hall of Fame des songwriters, tu vois, c'est quand même pas mal.
Ouais.
Et ça, c'est beau. Elle a un doctorat de musique.
Ah, en musicologie.
Ouais, voilà, tu vois.
Ouais, bah, tu sais, t'as Nile Fonder qui. T'as Nile Fonder qui est à Harvard pour faire apprendre.
Bien sûr, bien sûr. Mais ça veut dire aussi que c'est remarquable. C'est-à-dire que t'as un discours, quoi.
Je suis d'accord,
ouais.
Mais ça reste de la merde.
Mais de la bonne merde, monsieur.
Mais de la bonne merde, de la merde que moi je mange goulûment. Okay.
Non, puis, des MTV Awards et puis des.
Non, mais ça je compte pas, les Energy Awards, tout ça, on s'en fout. Ça compte pas, On compte en Grammy ici, ok.
D'accord.
Est-ce que tu as le petit gramophone? Tu l'as ou tu l'as pas? C'est tout.
Bien sûr.
Ok.
Bien sûr. Et ça, on a.
Du coup, alors attends, pour clôturer cet épisode. C'est quoi ton morceau préféré, mon petit bonhomme?
Ouais, c'est Suck It To Me.
Ouais, c'est vrai.
Ah oui, quand même.
Ah là là.
Pas mal, hein?
Alors moi, si on me demande quel est mon morceau préféré, c'est compliqué parce que le silence est le morceau préféré de Missy Elliott. Étant un fan des barbecues de George Foreman, je pense que on va se faire un All in My Grill. Hein.
Ouais, il est très bon aussi.
Ah, moi, ce morceau-là, c'est... C'est toute une époque, hein. C'est la Dreamcast.
Ouais.
Ah bah ouais, non, ça c'est ces années-là, c'est les années Dreamcast, tout ça, PS2, ça sort pas, on sait pas trop. Tu vois.
Donc voilà, on a la fin.
Je suis content parce que c'est une artiste du coup, comme on l'a fait, bon, on la fera plus jamais.
Non. C'est
et
vrai.
Ça c'est bien.
Oui.
Non, je plaisante. C'est cool parce que en fait, il faut replacer dans le contexte. C'est ce genre d'artistes qui ont permis de populariser le hip-hop.
Bien sûr, complètement.
Parce que j'ai beau être très critique sur ce genre d'artistes,
il est taquin.
Je suis pas dupe. Hein. Je sais que c'est pas avec mes connards, avec des violons ou des bandanas qu'on aurait fait connaître le rap dans le monde. Hein. Donc il faut à un moment donné qu'il y ait des gens qui passent de l'autre côté et fassent un petit peu le crossover.
Ouais, c'est ça, complètement.
Et franchement, Timbaland, Missy et toute la clique. Bah,
on
pourrait
le mettre au début, ça, ce qu'il dit.
Ouais.
Ça, c'est pour le. Tu sais, c'est genre le bonus. C'est toute la bienveillance, elle est condensée en fin d'émission. Tu vois, il faut secouer le podcast hein, pour que ça remonte et que ça soit diffusé dans les hautes couches du breuvage. Non, mais voilà, je reconnais. Moi, le délire de. On est des rappeurs underground et notre but dans la vie, c'est de pas vendre. C'est ridicule. Ouais. Tous les rappeurs veulent vendre.
Bien sûr.
Si tu réussis à vendre en faisant du Mobb Deep ou du Wu-Tang, c'est ultra cool. Mais à un moment donné, il faut pas se tromper. C'est ça que tu passes en soirée. C'est pas Give Up The Goods. Pourtant, j'aime Give Up The Goods, mais c'est pas ça qui passera en soirée. Ouais. Ou alors Anti Up, mais dans ce cas-là, il va y avoir des bras cassés.
Et puis ça dure une année, quoi, deux années.
Ouais, en plus. Donc voilà, une belle façon de finir. J'espère que du coup, on aura un vrai artiste le mois prochain.
Bah, écoute,
dans deux semaines.
Je pense qu'on en a un vrai.
Alors est-ce qu'on divulgage?
Non, ça vaut le coup de garder la surprise.
Ouais, ok.
Peut-être qu'on va changer.
Ouais, c'est possible aussi. Ouais. Je pense que quand tu vas, parce que tu tiens quand même à t'atteler au truc, quand tu vas regarder la discographie, tu vas dire bah, finalement on le fera dans 6 ans parce que j'ai pas le temps.
Ça risque de durer longtemps.
Oui, ça va. Voilà.
Ça risque de durer très longtemps. Mais c'est un artiste majeur.
Majeur pour moi.
Mais non, majeur dans. Non, majeur, franchement. Si. Ça va être intéressant. Parce que les gens le savent pas. le savent pas.
Ah bah oui, les gens, ils savent pas du tout. Ça, ils sont pas prêts. Putain, on a surtisé
alors,
le truc.
Là,
même moi, je suis. Mais c'est qui? Mais de qui il parle?
Et alors, bah, rendez-vous dans 15 jours.
Voilà qui clôture ce 9e épisode de Six and Daz. Donc, c'était sur Missy Elliott et un petit peu tout ce qui s'est passé du côté de Timbaland. Donc, on se retrouve dans 15 jours avec un artiste mystère. Essayez même pas de nous harceler sur Twitter comme vous faites à chaque fois pour savoir c'est qui le prochain et pourquoi est-ce qu'on fait pas ci et pourquoi est-ce qu'on fait pas ça. Alors, on garde ce tapis sonore là. Ok, j'ai des gens sur Twitter qui m'ont dit, les gars, j'augmenterai mon obole au Patreon, donc déjà ça veut dire qu'ils donnent déjà, tu vois, quelque part, si vous faites un jour, si vous me garantissez qu'à un moment donné, vous allez peut-être parler de rappeur français. Et j'ai dit, tout à fait.
Bah oui, mais complètement, moi, c'est ma culture. Je suis d'abord rap français avant d'être rap US. Hein.
Et ben voilà.
On l'a grandi avec le rap français.
Donc attendez-vous à du Benny B, ou du MC Solar. Parce que après, le rap français, si on veut faire des émissions d'un quart d'heure, on peut aussi.
Oui, bien sûr. Non, mais on a des gros artistes et avec lesquels on va pouvoir bien parler.
Oh, putain, ça va être NTM.
Non.
Oh, je souffre d'avance.
Non, on va faire des trucs. Je pense qu'on est.
Moi j'ai dit
il y aura
il y aura du sage-peau, il y aura du rof, du Edalji, il y aura tout ça.
Non, on va faire même par récolte les bites de boules et tout ça, on va faire un truc sympa. On va faire un truc bien comme il faut.
Ah, ça va être
mais
bien.
On a les mêmes trucs là-dessus.
Et du coup, donner de l'argent au Patreon les gars.
Si vous voulez que ça continue.
Ah ben là on vous a vendu le truc quand même. Non, c'est pas vrai, même si vous donnez pas, on le fera quand même parce que nous on aime faire ça, mais donnez quand même, c'est
la passion,
Et la prochaine, du coup, non seulement ça sera sur un artiste mystère, mais il y a des chances qu'on le fasse en live depuis notre QG de Qualitaire, positionné agréablement sur les quais de Seine. Très bien positionné pour toi. Moi, ça va me forcer, moi, à faire un podcast hip-hop dans Paris. Paris qui est pour moi une ville morte au niveau du rap.
19, 18, il y a des gens.
Il y a des gens avec qui.
Oui, la scred, tout ça. Moi, j'adore la scred.
Ils sont tellement scred qu'ils ont arrêté. Fab, tu lui dis, fais du rap, puis il va dire non.
Fab, c'est mon number one.
C'est vrai?
Ouais, vraiment. Ouais,
c'est con parce qu'il a fait que deux albums, quand même.
Bah, il reste dans la légende.
Ah, beau gosse. Ok. Il m'a sorti Fab dans le 18. Moi, j'étais parti sur du Doc Gynéco. Donc, au final, on finit quand même sur une note qualitative.
Voilà, on fera toujours du qualitatif.
On fera toujours du qualitatif. Sauf quand on fait des Missy Elliott. Mais c'est un autre débat. En tout cas, ça nous a fait ultra plaisir. Merci, yes. Six, merci d'être avec nous. Merci, le Magislin. Le Magislin d'Oz. Oui, Gislin. Merci aussi au public, chez Bli.
D'avoir été là. On va faire une hola, le public.
Une hola de une personne. Voilà, donc. Soyez présents pour dans 15 jours parce que du coup on sera peut-être en live peut-être. Sur un artiste incroyable. Et d'ici là, portez-vous bien.
Ciao.
Bisous à tous. Welcome to the show. Six and Daz Hip Hop Show. Bringing you the best. Bringing you the best in hip hop.
DJ turn it up. Oh yeah. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.